Hey! Bonjour les amis, comment ça va en ce samedi matin? Qu'est-ce que c'est que ce... un stream le samedi matin? Mais pouh! Moi je vous le dis, hein, ce monde n'a plus de règles, hein, ce monde va à volo. Vous allez bien? Alors, on a lancé il y a quelques semaines, 3 semaines je crois, un nouveau rendez-vous sur cette chaîne Twitch, plus de chaîne indé, tranquillou, un nouveau rendez-vous le samedi. Jeu de mots immense, jeu de mots incroyable, le Sam... dit des bonnes nouvelles le samedi, voilà. Et parce qu'on s'est dit, on a fait le constat quand même que depuis des années ici, on martelait le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi matin, des nouvelles pas ragoûtantes, hein, pas très positives de l'actualité. Et donc je me suis dit, tiens, je vais collecter quelques petites bonnes infos un peu sympas, un peu feel good, même si tout ça est très relatif, hein. Ce qui me met en joie, moi, ne va pas forcément vous mettre en joie, vous. Et on va en parler le samedi. Des bonnes nouvelles, il y en a vraiment. Mais oui, mais il y en a plein, en fait. Mais c'est juste que l'humain est ainsi fait que parfois, il focus à mort sur ce qui ne va pas, plutôt que sur ce qui va, quoi. Voilà. Du coup, dimanche, c'est le jour des fake news. Yflin, c'est une vraie bonne idée de rendez-vous, en vrai. Ouais. Car samedi, dimanche. Sam dit manché. Ouais, c'est un peu piqué. Ouais, c'est un peu tiré par les oreilles, quoi. Mais ça a changé. C'était pas samedi des bonnes nouvelles. Oui, maintenant c'est le Sam dit des bonnes nouvelles. C'est mieux. Merci Bubu Seb. Merci, me faire une suggestion de jeu Manza Ark Raiders. Non, je résiste, hein. Je résiste. Merci beaucoup Knazower pour le Prime aussi. Merci beaucoup Olistou. Je crois que tu étais le premier à sub ce matin. Merci pour le 51e mois d'abonnement. Qu'est-ce que je disais? Oui, je résiste. Ark Raiders, voilà. Alors qu'est-ce qui va se passer sur Ark Raiders? C'était la même chose que d'habitude, c'est-à-dire que tout le monde joue à un jeu et moi je suis comment me qualifier? Qui suis-je? Je suis lent à la détente, voilà. Et donc je n'y vais pas. Je renifle, je tâtonne, je regarde du coin de l'œil. Je vois tous les autres qui y jouent. Voilà. Et quand l'Ark Raiders va s'affaiblir, quand les gens se seront lassés de ce jeu, voilà. Et bien, voilà, évidemment, dans mon cerveau très rapide, ce sera le bon moment pour me lancer sur Ark Raiders, quand plus personne ne s'y intéressera. Voilà, donc ça va arriver. Dans pas longtemps. Mais je n'ai rien contre Ark Raiders. Et qu'est-ce qui va se passer? Le jour où je vais lancer Ark Raiders, 6 mois après tout le monde, hein, je vais dire « Ah, mais c'est incroyable !» Merci Yendo pour le soutien, merci pour le 6 mois. « Ah, mais ce jeu est incroyable !» Mais j'aurais dû y jouer plus tôt, hein, le grand classique. Et vous me direz « Mais on t'avait dit !» Et moi je dirais « Mais non !» Alors vous me l'avez dit tous les jours. « Mais non, pas du tout !» Hein, parce qu'on est aussi une mauvaise foi ici. Voilà, quand il n'y aura plus que des gens full stuff et des cheaters. Voilà. C'est le moment que je vais choisir. Qu'il est con. Voilà, donc c'est ça que je vais faire. J'attends ce moment avec impatience. Oh, ma vie est belle. Ma vie est belle. Marceau me dit, je te rassure, Sam, je fais pareil. Lent pour les jeux, les séries, je fais tout après tout le monde. Je ne suis pas un rapide, moi. Je suis un observateur. Est-ce qu'on peut faire des exercices de réveil musculaire avant de commencer, genre un rendez-vous qui s'appellerait Sam Muscle? Sam, oui, ok, voilà, hop, le réveil musculaire est fait, et ça me plaît, alors c'est un Sam un peu particulier, parce qu'on ne va pas jouer à un jeu vidéo dimanche. J'ai invité Ava, ça fait longtemps, vous savez, la programmation de ça me plaît, ça se cale sur des mois, hein. Il faut que les gens soient disponibles, Ava elle est à Bordeaux, il faut que ce soit ok pour elle en termes de timing, tout ça. Et donc, ça fait un moment qu'on parle avec Ava, qu'elle vienne en Simplay. Et quand on s'est calé une date, je lui ai dit « Ok, c'est fait. À quel jeu on joue ?» Et elle m'a dit ce que Clama Coquine écrit dans le chat un instant et qu'elle aurait pu dire « On va bouger son popotin et réveiller les voisins. » Bon, elle n'a pas dit comme ça. Elle a dit « Samuel, tu sais que j'aime la musique. Je suis DJ à mes heures perdues. Est-ce que tu veux que je... » Noctali, salut. « Est-ce que tu veux que je t'initie ?» Au mix, au platine. Je lui ai dit banco, bien sûr. Je crois qu'on en avait parlé au dernier The Event aussi. Et donc elle vient dimanche, on a loué avec Joe des platines de fou. Voilà. Je crois que c'est ce que vous voyez sur le visuel là. C'est dans le salon à côté là. On a demandé à un gars de venir faire les lumières. On a demandé à un gars de réfléchir à une DA lumière. Voilà. Ce même gars va amener des fumigènes. On sera deux avec les moyens en termes d'ambiance du Stade de France. Voilà. C'est cadeau, c'est pour vous faire plaisir, je pense qu'on va rigoler. Le plus gros projet de l'année sur la chaîne, non, non, non. On aura d'autres, les gars, on est le 17 janvier. Ça va passer platine, joli. Ah oui, alors Lulu Berlu a raison, et je pense que je vais te piquer cette blague pour dimanche. Hein. Ce sera peut-être le seul moment de ma vie où sur quelque chose, je vais passer platine. Platine. Voilà. En parlant de bouger son popotin, est-ce qu'il y aura des projets sportifs sur ta chaîne cette année? Petit trail avec Domi et Clem Kikou, ce serait incroyable. Domi Domingo, PA? Là, je fais du gras, surtout. Je fais du gras. Merci FDP pour Fleur de Peau, pour ton message et ton soutien. Je fais du gras, je fais du bedou. Hein? Les gens du quartier qui me croient souvent viennent me féliciter, me disent ouh, monsieur Étienne, on attend un heureux événement. Hein? La famille va s'agrandir. Non, 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 j'ai du bide en fait. Donc là, il n'y a pas de projet sportif à court terme là. Il faudrait que je me remette à courir là. Pouf, voilà. Sam, pourquoi tu vas pas jouer sur le serveur Minecraft Pokémon avec tous les streamers français? Parce que je ne suis pas au courant. J'ai vu des gens, ouais, mais personne ne m'en a parlé. Je ne suis pas au courant. Voilà, je peux pas. Je ne peux pas aller là où je ne sais pas où c'est. Là, pour le coup, là, je pêche par totalement ignorance. Je ne sais pas ce que c'est. Bon, vous, ça va le week-end, tout? La fête? Un peu de repos? J'espère que ça bosse pas trop. Je sais que dans le chat, il y a des gens qui bossent là. Je sais qu'il y a des gens qui bossent. C'est organisé par Étoile et son équipe. Eh ben, je n'ai zéro info, Ketzak. On peut pas être partout. Hein. On peut pas préparer une soirée enfiévrée, une soirée intense. Une soirée qui va rester dans les annales. Une soirée pumped up. Dimanche soir et être sur tous les fronts. Sam, il faut s'intéresser à ce qui se passe dans le monde enfin. Oui, mais c'est un truc qui fonctionne par invitation, non? Je pense, non? Enfin, vous prenez dans la rue, vous voyez de la lumière à une fenêtre avec des spots là? Et vous montez dans la teuf? Faut être invité, non, dans ces trucs-là, non? Je sais pas, non? En tout cas, en vrai, j'ai pas d'infos sur le sujet. Chouinom, ça va le faire. De garde hier aux urgences. Voilà, ça bosse. Je vais passer ma journée dans le lit, c'est ça la bonne nouvelle. Poppy, pardon. Il y a quoi? Il y a une petite tablette, il y a des chocolats à porter, il y a une journée au lit, on se repose, une petite sieste, tout, un petit film. Waouh! Hey Sam, je viens de voir sur Instagram une artiste qui t'a dessiné en personnage de WoW. Trop stylé, je sais pas si tu l'as vu passer. Ah non, mais ça m'intéresse à mort. Yandereko, on peut pas mettre de lien internet dans ce chat, sinon il y aurait des. Sinon, on aurait des gens sympathiques qui mettraient des gros zizi. Ah, Sugar, tu l'as vu? Alors, Sugar l'a vu. Alors, si Sugar l'a vu, Sugar va peut-être le retrouver. Et lui, il a le droit parce qu'il est modo. Parce que lui, voilà, les modos mettent très peu d'images de zizi, j'ai remarqué dans le chat. Charlotte Couder? Let's go. Elle s'appelle Charlotte Couder. Voilà, parce que dans les règles des modos, il y a on ne met pas Insta de photos de Zizi sur le chat de Samuel Etienne. Voilà, c'est dans les conditions générales hein, qu'il faut lire avant de signer Charlotte Couder. Pourquoi je dis gros Zizi d'ailleurs? Je pourrais dire Zizi tout court. Hein. Marrant, pourquoi gros? Charlotte Couder, je l'ai. Fais voir. Ça a l'air marrant. En parlant des urgences, me dit Tom Thompson, mon beau-père qui travaille en a vu de belles et des urgences. Et surtout un bingo des excuses en voiture. Voilà. Alors, Tom Thompson, on est samedi matin, on est dans le samedi des bonnes nouvelles. Hein. Les histoires du gars qui débarque avec un siège de camping dans le cul, hein, ou que sais-je, ou une boule de bowling. Non, on les connaît, vos histoires des urgences. On les connaît par cœur. Hein. Ah, mon beau-père travaille aux urgences, il demande la de belle. Avec des... Ouais, on les connaît, j'ai glissé. Oui, on les connaît. Non, c'est bon. C'est le samedi des bonnes nouvelles, c'est pas le samedi des dingos. Bon. Stop, stop, stop. Pardon, je ris tout seul. J'ai parce que des viewers régulièrement qui me rapportent ce genre d'histoire. Stop, stop. Le zizi coincé dans l'aspirateur, on connaît Alastair. Je ne connais pas, moi. Alastair, c'est chacun sa vie. Moi, je ne juge pas. On est dans le domaine où il ne faut pas juger. Hein. On est dans le domaine où il ne faut pas juger. Alors, tu connais. Hein, le zizi coincé dans l'aspirateur, on connaît. Tu connais. Hein, on connaît. comme dit Sugar, chacun ses kinks. Moi, je ne juge pas. Hein. Je ne te juge pas, d'ailleurs. Hein. Ce stream n'est pas sponsorisé par Dyson, d'ailleurs. À ce propos. Ce stream n'est pas sponsorisé, d'ailleurs. Le zizi coincé dans l'aspirateur, on connaît. On connaît. Tu connais. Alors, mais là, je suis pas en personnage de WoW, là. Tu disais, il y a quelqu'un sur Insta, sur son compte, qui t'a... Ah, c'est pas celui-là. Ok. Alors, je suis où, alors? Cherchons un vieux. Ah, c'est pas moi, ça. Celui-là? Moi, j'ai vu un mec avec des cheveux blancs, j'ai cliqué. C'est lui?
Mais une équipe d'élite pour affronter un donjon de très haut rang, Ulduar. Like, c'est un laugh. Un JDR sur Instagram où c'est vous qui choisissez le destin des héros. Si tu vois cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Tu fais partie de la classe des prêtres. Votre officier de classe, c'est Samuel Etienne. Foi, calme et dévotion.
Foi, calme et dévotion. Mais c'est moi, ça!
Alors canalise la lumière, surveille les barres de vie, départ pour Ulduar dans 5 jours. Qui sera le prochain à rejoindre l'équipe? Abonne-toi pour ne rien louper.
Ah ouais, c'est moi ça!
Je redessine tes influenceurs préférés en perso de JDR, bienvenue dans l'épisode 6 de World of Instacraft. L'objectif est simple, former une équipe d'élite pour affronter un donjon de très haut rang.
C'est moi ça? Comment ça, Sam l'intégriste religieux? Oh, vous êtes bête, en vrai c'est classe, ouais.
Je redessine tes influenceurs préférés en perso de JDR. Bienvenue dans l'épisode 6 Instacraft. L'objectif est simple.
Je vais me le mettre de côté. Hein. Je vais me l'envoyer via WhatsApp. Salut, Boubou. Je vais me l'envoyer via WhatsApp. Alors, attends. Parce que vous aussi, vous envoyez des messages à vous-même? Vous aussi? Elle t'attaque dedans. J'irai voir. Alors... Instagram, wow, voilà. Hein, voilà les ponces bêtes. Sur la publication suivante, il y a plus de détails. Attends, ah bon? Ah, elle a fait avec Enjoy Felix aussi. Mais je vois pas la suivante. J'irai voir. Ah. Elle a fait Kayane, ouais, elle a fait Enjoy Phoenix aussi, ouais. Elle a l'air très sympa en tout cas. C'est classe. Bon, bah on va se faire une petite revue de presse des bonnes nouvelles. J'ai pas 6000 bonnes nouvelles. Hein. Vous avez vu l'actualité en ce moment, c'est un peu chargé. Groenland, Venezuela, Trump, l'actualité politique en France. Donc voilà. Je vous ai trouvé des trucs. Iran. Donc ça reprend lundi, hein, bien sûr, tout ça. Voilà. Merci Sansoué. Ça reprend lundi, sachant que ici on dégaine à tout moment. Hein. La Suisse est là, ouais. Ça c'est la semaine d'avant, ça, Captain Icarus. Parfois quand je vois tes sommaires, je skip les mauvaises nouvelles pour ne garder que le moins négatif. Mais oui, tu m'étonnes. Donc, et ici, ça peut dégainer à tout moment. Hein. Ça peut partir en spécial. Hein. C'est-à-dire que là, vous me dites, je sais pas, une dinguerie. Au hasard. Trump. L'ICE aussi. La mort de l'Américaine, là. La mère de famille tuée par la police de l'immigration. Là. Au hasard, Trump fait une dinguerie. Ça part en spécial. Hein. Priorité à l'actu, comme ils disent sur les chaînes d'infos. Hein. Donc, on a fait ça le dimanche du Venezuela. Une spéciale le dimanche matin, là. Vous vous rappelez? Ça, là, on est prêt. Hein. Voilà. Donc, mais sinon, ça reprend lundi, ouais. Comment ça, Trump a envahi le Mexique? Là, tout de suite? J'ai tellement hâte de te voir mixer à la David Guetta. Ouais. Moi, j'ai peur d'être un peu cringe et ridicule, mais bon. La dinguerie du matin, c'est Benavides qui gagne le Dakar dans la catégorie moto pour 2 secondes. Ah ouais? Incroyable. J'ai pas trop suivi, ouais. C'est quand le live avec Ava? Laisse-moi regarder sur ce visuel. J'ai l'impression. Alors peut-être que tu regardes sur téléphone. J'ai l'impression que sur ce visuel, il y a un indice. Mais après tout, c'était petit, hein. C'était petit. Il y a un petit indice. Voilà. Il se pourrait que ce soit dimanche. Joli nez. C'est vrai que j'ai un joli nez. Tu vas kiffer. Ouais, de toute façon, Ava va me mettre à l'aise. De toute façon, hein. Je pense que Ava, elle est comme tout le monde, elle a des grands-parents. Hein, donc, elle va me mettre à l'aise. Hein. Viens t'asseoir. Est-ce que tu veux une petite madeleine avant de commencer? Une petite tisane, quelque chose pour te réchauffer? N'oublie pas de t'hydrater hein, pendant le live, hein. T'es bien assis? Est-ce que tu veux un coussin? Tu veux un coussin, papy? Allez, assieds-toi. Dis-moi si c'est trop fort, la musique, hein. Non, je dis. Dis-moi si c'est trop fort, la musique. Non, ouais, ça risque pas d'être trop fort, ouais, d'après ce que je vois, ouais. Plus fort? Tu n'entends rien? Ah oui. Voilà. Non, ça va très bien se passer. Ça va très bien se passer. La pauvre! Ah, rien que les refs musicales que je lui ai envoyés. Hein. Elle m'a dit, c'est quoi les sons que t'écoutes? Je sais pas, enfin, elle a utilisé une expression jeune, j'ai rien compris. Donc je lui dis, les classiques, quoi, ce qui fait bouger la jeunesse, Charles Aznavour, Dalida, Enrico Macias, hein, Pierre Bachelet, les Corons. Voilà. Et je lui ai envoyé mes cassettes. Et donc rien que ça, rien que les refs. Avec François, Patrick Sébastien, Patoche, Michel Sardou, Tino Rossi, les compagnons. Oh putain, les compagnons de la chanson. Julio Iglesias, mais toi non plus, tu n'as pas changé. Eh oui. Joe Dassin. Ouais. Oh, Joe Dassin. Oh. Attends, je suis obligé, Joe Dassin. Ah, vous, les jeunes, vous connaissez pas Joe Dassin. Ah là là, il y a des trucs. Ah, Joe Dassin. C'était pas. Live à l'Olympia. J'ai un live à l'Olympia 1977. Et si tu n'existais pas. Après, je sais plus ce qu'il dit. L'inventer.
Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour et qui n'en revient pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
Joe Dassin, j'adore. Ah, c'est une autre époque, hein. Mais moi, j'adore. Présence, voix, ah, c'est une autre époque. Alors, j'ai vu du Julio Iglesias. J'ai vu du Julio Iglesias. Et ça, vous ne connaissez pas, les plus jeunes. Ah. Oh là là. 1982. Julio Iglesias. Le gars qui faisait un peu l'amour à son micro. C'était très particulier. C'était très particulier. Ah oui, putain, c'est vrai qu'il est accusé de viol dans l'actu. Merde. Quelques jours, j'ai vu un truc où il est accusé de viol par les anciennes collaboratrices, je sais pas quoi. Ouais, on va, bah, du coup, on va éviter. Putain, j'avais oublié, ça, j'ai vu passer ça. Ouais, putain, le samedi des bonnes nouvelles, quoi. Allez, on est vraiment dans le journal des bonnes nouvelles. J'avais oublié. Ouais, j'ai vu ça cette semaine. On m'a pas roulé au du coup. C'était bien Joe Dassin en fait. Ah non, Garou, c'est trop jeune. Mec criminel de Garou. Non, c'est trop jeune. Nanana. Nanana. Et alors, être accusé n'est pas coupable, disqual. Oui, mais enfin, bon, c'est peut-être pas une raison de se faire tout ça à discographie ce matin. Ta-na-na. Vous avez pas un vieux chanteur là pour se mettre bien? David et Jonathan, c'est trop jeune, trop jeune. Clo-Clo, ouais, Clo-Clo, c'est pareil, hein, c'est compliqué aussi. Ta-na-na. N'empêche, Joe Dassin a un potentiel remix incroyable. Alors là, je suis complètement d'accord, Oulan. Aznavour, ouais, Aznavour, ouais, j'aime bien. Balavoine. Balavoine, regardez, mesdames et messieurs, le sommaire de ce journal des bonnes nouvelles. Dernier titre, hommage à Daniel Balavoine. Voilà. Ce matin, je lis les journaux, je me dis c'est quand même dingue qu'un chanteur comme ça, avec cette voix incroyable, hein, moi je kiffe Balavoine, qu'on n'en parle plus, hein, tu vois, alors, ok, le mec a peut-être pris sa retraite. Il est peut-être un peu en retrait. Voilà, il a connu le succès. Il a joué un peu ermite. Il sort plus trop de chansons, de titres, tu vois. Mais quand même, est-ce qu'on pourrait quand même l'inviter, le recevoir sur des plateaux? Voilà. Et du coup, je lis un dossier ce matin dans Le Monde. Et en fait, je me rends compte que le gars est mort. Ça fait 40 ans. Et ouais, c'est pour ça. Ouais. Et oui. Alors, sauf il y a une chanson de Balavoine qu'on n'écoutera pas, par contre. Mais bon, certains la connaissent. Sardou, ouais, Francky Vincent, Jean Ferrat, Elvis Presley, Dalida par pitié. Dalida, j'ai une immense admiration pour Dalida. Immense. Le requin qui a pas fumé son clope, ça c'est Bachung. Ne me dis pas que tu confonds Balavoine et Bachung. Ok, donc tous les chanteurs qui commencent par un B, c'est pareil. Allez, Barbara, let's go. Jordi, dur dur d'être un bébé, ça c'est bien ça. Alain Souchon, Pierre Bachelet. Alors Pierre Bachelet, oui. Ça, c'est daté ça. Pierre Bachelet. Donnez-moi les chansons de Pierre Bachelet, il y a les corons bien sûr, mais il a fait des belles chansons d'amour aussi. Et d'ailleurs... Très bien ça. Elle est d'ailleurs Bachelet qui je crois a écrit la musique de la bande originale du film Emmanuel, le film érotique d'il y a longtemps là. Yep. J'aimerais bien le voir chanter en live moi. Live au Bataclan 93, c'est bien ça. Archivina. Ah, j'ai une archive vinaigre. Ah, mais Lina, ils sont pas drôles avec les vidéos. Ils râlent quand on passe leurs vidéos. Bâche-les. C'est une belle chanson.
Elle a de ses lumières au fond des yeux qui rendent aveugle ou amoureux. Elle a des gestes de parfum qui rendent bête ou rendent chien, mais si lointaine dans son cœur. Pour moi, c'est sûr, elle est d'ailleurs. Elle a de ses manières de ne rien dire qui parle au bout des souvenirs. Cette manière de traverser quand elle s'en va chez le boucher.
C'est magnifique, hein. Ça, c'est une belle chanson. Et dire qu'à la même période, il y avait du Led Zepp, du Pink Floyd, du Aerosmith. Ah oui, ça aussi, j'aime bien. Paul Naref, ouais. JK, ça fait combien de temps que tu as commencé les streams sur Twitch? Oh, bah, il n'y a pas longtemps. Il y a 5 ans. Ça fait 5 ans. Une petite dernière pour le plaisir, on commence la revue de presse. Une belle vieille chanson comme ça. Scorpion, j'aimais bien Scorpion. Here I am. Tout. Scorpion, j'adore. Santiano, Maxime Forest, ouais. Tino Rossi. Non, arrêtez Tino Rossi, je pense qu'il n'y avait pas de disque à l'époque, on ne devait pas pouvoir enregistrer la musique, si. Ah, CDC, c'était bien. Bobby Lapointe, la Ziza, oui, mais on va écouter du Balavoine tout à l'heure. Sauf une chanson. Pourquoi on parlait de ça? J'en ai aucune idée. Cabrel. Oh, mais Cabrel, j'adore. Mais Cabrel, j'adore, moi. J'ai écouté Cabrel, moi, beaucoup. Cabrel. Francis. De tes yeux, la cabane du pêcheur, la corrida, tout le monde y pense, tout le monde y pense. Octobre, l'encre de tes yeux, je l'aime à mourir. Petite Marie, encore et encore, je t'aimais, je t'aime, je t'aimerai. J'adore mon Carole. La dame de Haute-Savoie, enfin, je sais pas choisir laquelle. L'encre de tes yeux, peut-être. Je ne sais pas laquelle choisir. Je t'aime à mourir, c'est pas Shakira? C'est une blague, maker. Il y a une reprise de Shakira que j'adore, qui est très belle. Mais non, non, c'est une vanne. C'est une vanne, c'est une reprise. Quiero morir, je t'aime à mourir. Très, très belle reprise d'ailleurs. Elle a fait une reprise en espagnol et une reprise en français. Sur la moustache, les gars. Non, les gars, on est dans l'émotion, la chanson est magnifique et jolie. La moustache, quelle moustache. Jésus avec une moustache. La moustache de Giga Chat. Non, non, les gars, vous n'avez pas de respect. Non. C'est dingue, ça. Attendez, faut fermer les yeux, là. Ah, ça fait des... c'est cool d'avoir des nouvelles de d'Artagnan. Non, non. Bon, allez. C'est bien, on est bien, on est chaud. Je pense qu'on est prêt pour la revue de presse. Comment ça, il a carrément un balai sous le nez. Vous êtes bête. Attendez, moi je pense qu'on fasse un petit Scorpion là. Moi, Scorpion, un groupe de métal allemand, hein, qui chante en anglais, vieux groupe. Je crois qu'il tourne toujours d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que j'ai aimé? Je crois que mon intérêt pour le tatouage naît d'une... Attendez, il faut que je vois la pochette. D'une pochette d'album de Scorpion, je regarde si je peux vous la montrer parce qu'elle est un tout petit peu caliente. Ouais, c'est celle-là. Ouais. Non, ça va. Ouais, c'est celle-là. Où est-ce qu'elle est? Là. Voilà. C'est un de mes premiers albums d'ado. C'est l'album Love at First Sting. Voilà. Et donc, bon, moi j'avais acheté, je ne sais pas quel âge j'avais, mais j'étais quand même hyper, hyper jeune. Et donc on a cette pochette d'album Regardez pas à droite, hein. À droite, c'est les pantalons en cuir un tout petit peu moulant au niveau du zizi, quand même. Voilà. Et on a une étreinte passionnée entre un homme et une femme, et l'homme est en train de tatouer un scorpion sur la jambe, la cuisse de la demoiselle. Voilà. Et je crois que l'une de mes premières rencontres esthétiques avec le tatouage, hein, depuis ça s'est un peu tatoué ici, eh bien c'est avec cette pochette, c'est avec cette pochette, voilà, qui est plutôt belle, esthétique noir et blanc, plutôt pas mal. Voilà. J'avais jamais vu qu'il faisait un tatouage, mais si. Ah bah si, regarde, tu vois, il a son, comment on dit, son truc pour tatouer là, dans la main droite, voilà. Et alors, vous voyez que le gars, la photo est belle, mais elle est problématique, quand même. Il est en train de tatouer. Il est en train de tatouer. Donc c'est à vie, hein, voilà. Il a les yeux fermés. Il a littéralement son visage enfoui dans le cou, la gorge de la dame, hein. Il ne voit rien. Voilà, comme le dit Elig, non, oui, Flibustier, le tatoueur pas concentré du tout. Ah, c'est plus que du freehand, c'est plus que du freehand, c'est du blind freehand, tu vois. C'est-à-dire que y a pas de dessin, y a pas de modèle, y a même pas les yeux, quoi. Hein. Donc là, pardon, je voilà. Faut-il réhabiliter ma moustache? Ça devait être la moustache, je pense, non? Je sais pas. C'est quoi ces sondages? Vous êtes des malades? Voilà. Ils aiment le risque, quoi. Donc, mais voilà. Et donc, on va s'écouter un petit scorpion, bien sûr. Obligé, parce que ça, c'est quelque chose, quand même. Scorpion, Winds of Change, Still Loving You. Alors, le paradoxe des groupes de métal, c'est que parfois, parmi leurs grands succès, il y a des ballades, des slow, des sloves. Still Loving You. Voilà. Mais, qu'est-ce qu'on pourrait... Il y a Rock You Like an Hurricane, bien sûr. Here I am, tintin, tintin, rock you. C'est pas mal ça. Ça va peut-être écouter ça plutôt. En vrai, quel bonheur, hein. Ah, moi, j'étais très scorpion quand j'étais ado. Ah non, tu n'en sais pas un pogo là-dessus, Charligno. Ah bah non, le pogo, c'était sur d'autres titres. Ça dansait le pogo ici, dans ma génération. Mais pas sur du scorpion, du coup. My cat is purring, heureusement que c'est en anglais. Alors, ça veut dire quoi, my cat is purring, du coup? Voilà. C'est une chanson qui est plutôt facile à jouer avec la guitare. En plus, on s'amuse facilement avec. Mais non, baguette bois, bravo. Parce que moi, je suis incapable de plaquer un accord. Scorpion, mon premier concert live, 13 ans, me dit Mackie Mitz. Je m'en rappelle encore, une folie. Mon chat ronronne. Mon chat ronronne. Ah ouais, c'est vrai, c'est mieux en anglais, ouais. Non, 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 non. Ok. Mon chat, c'est mon chat. C'est un garçon. Moi, mon premier concert... C'était la tournée de Téléphone, Un Autre Monde. Waouh. Bah, 12 ans, 13 ans, avec mon copain Nicolas. Nicolas. Ça, c'est, vous savez, quand on vieillit, il y a des gens qu'on perd de vue. Et puis, il y a des gens dont on se souvient plus que d'autres. Et moi, et c'est marrant, c'est un truc, j'aimerais bien retrouver Nicolas. Nicolas, c'était mon copain de, je dirais, sans doute fin de primaire, début de collège. On perd la vue aussi, ouais. Et Nicolas, j'ai même essayé de le trouver sur Internet, je l'ai pas trouvé. Et en fait, il était, on était assez inséparables. Et puis après, on a pris des voies différentes. Voilà. Moi, j'étais un peu le petit con avec la mobylette, plein de copains, 2 heures le matin pour dire bonjour à tout le monde, les booms, les fêtes, voilà. Et puis Nicolas, il avait plutôt. Aujourd'hui, on dirait que c'était. À l'époque, le mot n'existait pas, mais c'était un geek. Ordi, jeux vidéo à l'époque. Voilà. Et voilà. La bosse des maths, hyper scientifique. Avec, voilà, vous voyez, les nerds. Le mot n'existait pas. Et en fait, on s'est perdu de vue. Et à mon avis, il a dû faire les études scientifiques après. Et puis moi, plutôt littéraire. Et puis après, on s'est perdu de vue, quoi. Et une fois, je l'ai recroisé. Il s'est cassé une jambe parce qu'il était tombé du haut des remparts de Saint-Malo. Enfin, au bord de la plage, là. Voilà. Et vraiment, c'était un bon ami. C'était un bon ami. Et j'ai essayé de le chercher sur Internet il y a quelques temps. Et puis, je ne l'ai pas retrouvé pour savoir ce qu'il était devenu et lui dire que j'avais un souvenir très précis de ces moments. Les samedis après-midi ou les mercredis après-midi chez lui, je me rappelle, il y avait plein de pistolets en plastique. Ça me fascinait parce que chez nous, on n'avait pas le droit aux jouets qui ressemblaient aux armes, tu vois, et donc on n'avait pas de pistolet en plastique, c'était interdit, ce que je peux comprendre d'ailleurs. Et chez lui, je sais pas, il avait 30, 40 pistolets en plastique, des mitraillettes en plastique, tout ça, et c'était top. Et donc on jouait, toi, les enfants, quoi. Poum, 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 poum. Voilà. Et puis, il venait chez moi aussi. On avait un cerisier dans le jardin. Et j'ai des souvenirs de. On prenait l'escabeau et à partir du mois de mai, on se baffrait de cerises. Et puis après, on avait un peu la gastro après, parce qu'on en mangeait trop, bien sûr. Voilà. Et c'est un très bon souvenir. Tu vois, des souvenirs comme ça, très précis, parfois, tu oublies tout. T'oublies tout mais tu te souviens de certaines personnes. Voilà. Et c'est un bon souvenir. Et le concert, et je me rappelle très bien que mon premier concert ever, donc de téléphone, Un Autre Monde, salle Omnisport de Rennes, je dirais 1982, 83 par là, c'est avec Nicolas. J'étais à fond, il était un peu gêné d'ailleurs. J'étais un peu le pauvre. C'était un super souvenir. Voilà. Je rêvais d'un autre monde. Je rêvais, exactement. Voilà. Donc un jour, je serais très heureux de le recroiser et lui dire que j'ai pas oublié ces moments. Voilà. Séquence nostalgie. Commencer par un concert téléphone, trop bien. Ouais. Après, j'en ai pas fait mille des concerts, moi. J'ai vu à Rennes, j'ai fait Lloyd Cole and the Commotion. Ouais. J'ai fait NTM quelques années plus tard, à Paris, avec mon petit frère. Aznavour, j'ai emmené mon papa. J'ai pas fait beaucoup de concerts. Lloyd Cole and the Commotion. Des festivals, pas trop, non. Non. Mais, oh, Lloyd Cole, c'était cool, ça. Ça a vieilli, je pense. Il y avait les transmusicales de Rennes, bien sûr. Bien sûr, il y avait les trans, ouais. Lloyd Cole, c'est incroyable, Lloyd Cole. Le groupe de pop du nom du chanteur, qui s'appelle Lloyd Cole, d'ailleurs. Totalement oublié, je pense, aujourd'hui. Ah, pourtant, c'était bien. Lloyd Cole, c'était le chanteur, and the Commotion. Vous n'allez pas aimer, hein, c'est super vieilli. Hein. Moi, j'adore. Qu'est-ce que je... Last weekend, Rattlesnakes, Perfect Skin, She Got the Perfect Skin, Brand New Friend. Ça a vieilli, hein, je pense. Jennifer, she said. Ouais, je vais vous faire écouter un truc, vous n'allez pas aimer, je pense. Last weekend. Ouais, peut-être Last Weekend. Vous avez pas aimé, hein. Ouais, moi j'aimais bien. On est sur la pop. Je crois que c'est britannique, je pense. Il devait être britannique. Ah, il est peut-être américain, Lloyd Cole. Vous avez pas aimé, je crois. Small hour. Ah, je suis content parce que j'ai des bons retours dans le chat. Je pensais que vous auriez pas aimé. Ouais. La chanson, c'est Lost Weekend. Voilà. Mais ils ont fait plein de tubes. Il y avait une petite façon de grimacer quand ils chantaient, j'aimais bien. Donc ça, c'est un concert que j'ai vu à la salle de la cité, quoi, à Rennes, dans ces années-là. Voilà. Bon, voilà pour l'intro musicale. Et si on passait au sommaire de ce... Salut, MCK. De ce samedi des bonnes nouvelles. Est-ce que vous êtes prêts, les beaux gosses? Et on va pouvoir démarrer cette revue de presse qu'on retrouvera aussi en podcast, comme tous les jours. Je pense à partir de 15-16 heures. Ok, c'est parti. Ok, alors je vous démarre ça. Je ferme tous les clips là que j'ai ouverts de Scorpion, de Lloyd Cole, de Pierre Bachelet. Voilà, Insta aussi. Voilà. C'est parti, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé pour vous. Let's go. Bonjour à tous. Non, je fais pour ceux qui arrivent. Bienvenue dans la revue de presse du samedi. Alors, la revue de presse du samedi, elle est un peu particulière puisque c'est le Sam, c'est moi, dit, il dit quoi ? Des bonnes nouvelles, on est samedi, le jeu de mots est incroyable. 5 jours à vous bombarder de mauvaises nouvelles tous les matins dans la matinée Etienne sur Twitch. Donc, on a créé ensemble, c'est une idée de la communauté, une revue de presse du samedi qui ne parle que de choses positives. On va essayer de bonnes nouvelles. C'est le samedi des bonnes nouvelles. C'est la 3e édition, je crois. Alors d'habitude c'est samedi après-midi, mais là cet après-midi j'emmène mes enfants à des anniversaires, voilà. Et on va sillonner Paris en métro, et donc je me suis dit je vais vous la proposer ce matin, eh bien voici de quoi on va parler. C'est pas un samedi par mois, c'est tous les samedis, donc ça fait 6 revues de presse désormais par semaine sur cette chaîne. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Attendez, je vous montre ça tout de suite, on commence par le sommaire. Ce dont je vais vous parler, comme ça, même si vous ne pouvez pas rester avec nous pendant 2 heures, eh bien, vous aurez quand même l'essentiel de l'actu. En début de semaine, dans Le Parisien, je trouve un article sur un antidote français contre la ricine. Mesdames et messieurs, c'est français. Cocorico, Marseillaise tutti quanti. Au terme de 10 ans de recherche, c'est une start-up lyonnaise qui a mis au point le premier remède mondial à ce poison mortel. Hein. Jusque-là, je crois qu'il n'y avait pas du tout d'antidote qui figure parmi les menaces les plus redoutées. Matière d'empoisonnement, je sais pas, d'opposants politiques ou d'attentats, voilà, et ben c'est français. Donc, contre la ricine, antidote français, article dans Le Parisien. Au début de semaine, dans Le Figaro, qui fêtait ses 200 ans cette semaine, il y a eu un dossier sur 200 ans de médecine. On me dit que la ricine dans Breaking Bad, il y en avait. Ah ben voilà. Ah ben maintenant, c'est plus possible. Comment la science prépare les vaccins du futur? Je trouve ça intéressant. Accélérée par la pandémie de Covid-19, la recherche travaille désormais sur des vaccins capables non plus seulement de prévenir les infections, mais aussi de traiter d'autres pathologies. Donc ce ne sont pas des vaccins préventifs d'ailleurs, hein. Ce sont des vaccins curatifs. Mais moi je ne suis pas médecin, mais parfois on a une définition dans le langage quotidien populaire du vaccin qui est un peu restrictive. Donc on a ça, on a aussi un article sur pourquoi sur le VIH on n'arrive pas à progresser. Et puis, toujours dans ce dossier du Figaro sur 200 ans de médecine, on a un article alors, dont le titre est un petit peu mystérieux, « Le petit club très fermé de ceux qui pilotent un ordinateur par la pensée ». Voilà, je pensais au projet de certains, Musk notamment, vous savez, là, d'implants cérébral et tout, là, pour... comment il appelle ça, l'homme augmenté. Alors, c'est pas ça du tout. C'est plutôt les personnes en situation de handicap, justement, à qui on propose une interface cerveau-machine. Ils sont moins d'une centaine de personnes dans le monde, leur permettant de récupérer des fonctions perdues lors d'un accident ou d'une maladie, voilà, qui permettent, par exemple, de remarcher. Bah, en vrai, je trouve ça assez formidable. Donc, le Figaro nous propose un petit article pour nous expliquer tout ça. Alors, rien à voir, on va parler d'amour. Parce que quel est le moteur du monde? À part la bêtise, je veux dire. L'amour, bien sûr. Voilà. Là, j'ai envie de chanter du Cabrel. Là. On a tout à l'heure chanté du Cabrel. Tout le monde... Comment s'appelle cette chanson de Cabrel, déjà? Tout le monde... Non, c'est pas le sexe, le moteur de l'amour, franchement franc. C'est l'amour. Tout le monde y pense, Cabrel. Attendez, je sais que je suis d'humeur musicale ce matin. Vous qui nous écoutez en podcast audio, vous n'avez pas entendu, mais on s'est écouté 15 000 morceaux tout à l'heure. Tout le monde y pense. Cabrel, magnifique. Magnifique. Alors, on vous passe un extrait incroyable d'une chanson incroyable, d'un chanteur incroyable. Et ça commente, vous ne l'avez pas en podcast, la coupe mulet du chanteur. Et alors, c'est fou ça, hein ? Ah là là, aucune tolérance capillaire. Eh bien, la transition est incroyable, puisque nous parlions d'amour, et vous m'avez emmené sur le champ sémantique du cheveu de la coiffure. Voilà. Quel est le titre de cet article dans Le Parisien ? Cette coiffeuse a formé 150 couples. La transition est magique. El Flaquito, j'ai une pensée pour ta famille, et pour toi, et pour ta mémé dont tu me parles. À l'occasion des 40 ans de son salon et des 10 ans de son concept de rencontre, Karine Lopez lance une licence donnant le droit à ses collègues d'utiliser sa méthode d'entremetteuse. Cette dame, elle a une passion, une double passion. Les cheveux. Elle est coiffeuse. Et l'amour. Voilà. Et au détour d'une coupe, d'un petit shampoing, eh bien, elle essayait de c'est une marieuse, quoi. Tu vois. Elle faisait remplir un petit questionnaire, tout ça. Et puis, elle disait, tiens, alors, Jean-Michel, il irait bien avec Nathalie, tu vois. Et elle a formé 150 couples. C'est trop mignon. Voilà, petite histoire un peu chouchoute là-dessus. Voilà. Voilà. Vous êtes plusieurs à me dire, je ne donne pas des pseudos dans le chat. Oh, j'irais bien voir cette coiffeuse, moi. Voilà. Donc, j'ai trouvé ça assez mimi, je vous l'ai mis de côté. Et puis, on terminera. Moi, je suis d'humeur très musicale ce matin. On écoute plein d'extraits ce matin. On rendra un hommage à Daniel Balavoine, puisque ça fait tout juste 40 ans qu'il est mort. Il y a un très beau papy dans le monde, et moi, Balavoine, c'est un chanteur que j'adore. Voilà. Et je ne suis pas le seul. Daniel Balavoine célébrait tous azimuts. Voilà. Tournée, compilation, les hommages au chanteur de L'Aziza. Oh, L'Aziza, quelle chanson. Ah, oh, Balavoine, on écoutera du Balavoine. Se multiplie 40 ans après sa mort. Bon, il y a une chanson de Balavoine qu'on n'écoutera pas, qui est un peu datée. Voilà. Mais on en parlera tout à l'heure. Hey, voilà mon petit sommaire des bonnes nouvelles. Voilà, des petits trucs chill, des bonnes nouvelles en matière de santé, de l'espoir, de l'amour. Tout le monde y pense. Voilà. Til Paris, je viens d'en parler à l'instant, mais il faut écouter. Hein, voilà. Donc, c'est pas mal, non ? Til Paris, je viens d'en parler. Merci Baguette Bois, merci. Ouais, ça fait du bien, voilà, ça nous racénère, on pourrait dire ça. Salut Kao Ku Kokung. Voilà. Bon voilà, on y va, on commence avec la ricine. L'antidote. Mediapart, ça file le cafard à côté. Oui, mais c'est normal. Mediapart, d'ailleurs, excellent média. Mais là, justement, on prend le contre-pied de l'actu de la semaine. Quoi. On essaie de se mettre un petit peu racénéré. Voilà, racéré. Non, pas la chanson de la SketchUp. Le verbe racénéré, quoi. Le dictionnaire, mon ami. Je tape racé. Qu'est-ce que me propose Google ? C'est fou ! Hein ? Voilà. Je tape racé. Voilà. Racé. Je veux racé. Qu'est-ce que me propose ce... Non ! Mais... C'est pas possible ! C'est le samedi des bonnes nouvelles. Voilà. Racé-réné. Verbe transitif. Voilà. Donc, racé-réné. C'est pas racé-néré. C'est racé-réné. Racé... Et ça a donné une chanson, effectivement. Racé René, racé nanana, voilà. Incroyable. Racé René, retour au calme, ramener au calme et à la sérénité. Voilà. Racé René. Voilà. Je suis racé René. Ouais. J'apprends un mot. Alors moi, je le disais à l'envers, tu vois, je pense que je ne le prononçais pas bien. Comment ça, les recommandations de Google sont faites selon tes préférences ? Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Cibourg, qu'est-ce que tu veux dire par là ? Fais fun fact, le refrain d'Acerere est une version yaourt des paroles de Rapper's Delight du Sugar Hill Gang. Grand morceau, hein, Rapper's Delight. L'historique de Samuel, ça va être quelque chose. C'est pas faux. Exactement. Bon, on part sur la revue de presse. Allez, let's go. Premier sujet. Gestion du sommeil. Contre la ricine, donc le poison, un antidote français, mesdames et messieurs. C'est français. Cocorico. Article du Parisien début de semaine. Voilà. Contre la ricine, un antidote français au terme de 10 ans de recherche. Oui, mesdames et messieurs, comme le dit MMG, c'est la France. C'est la France. Voilà. 10 ans de recherche, une start-up lyonnaise. Bravo les Lyonnais. Allez l'OL. Oh putain, je viens de me mettre à dos tous les supporters de l'OM. A mis au point le premier remède mondial à ce poison mortel qui figure parmi les menaces les plus redoutées. Voilà, pas mal, non? C'est français. Ce soir de septembre 1978, comme à l'accoutumée, Georgi Markov se fond dans un agglutinement de passagers à l'approche d'un bus londonien sur le pont de Waterloo. Alors que s'ouvrent les portes, le président bulgare, le dissident bulgare de 49 ans, ça sent l'empoisonnement à plein nez. Le dissident bulgare de 49 ans, pourfendeur du régime communiste, ressent soudain une douleur vive à la cuisse. Par réflexe, il se retourne sans pouvoir en identifier la cause. Et là, ça sent plus que l'empoisonnement, ça sent le coup du parapluie. Tout juste aperçoit-il un homme ramassant son parapluie. Le fameux coup du parapluie prisé des espions de l'époque. Hein. Je crois qu'il y a un film avec Pierre Richard d'ailleurs. Je me demande si dans Le Grand Blond avec une chaussure noire, un truc comme ça, il n'y a pas une histoire de coup du parapluie. Georgi Markov, donc cet opposant, décédera 4 jours plus tard sans qu'on ait pu identifier le mal qui a provoqué nausées et vomissements avant de le consumer. Un poison extrêmement violent que ce coup du parapluie bulgare, une bille toxique propulsée par un piston caché dans le manche de l'accessoire, va projeter en pleine lumière la ricine. Tu confonds les combats Samuel-LOM, c'est contre le PSG et l'OL. Pas du tout. Pas du tout. Il y a bien sûr la rivalité historique entre l'OM et le PSG. Il y a bien sûr la rivalité historique entre l'OL et l'AS Saint-Etienne. Mais il y a aussi le match des Olympiques. Le duel des Olympiques. Le combat des Olympiques. Le match entre l'OL et l'OM. Alors, qu'est-ce que tu réponds à ça? Je continue donc. Extrait des graines de ricin. Une plante commune, ce résidu de poudre s'avère aussi accessible que facile à élaborer. C'est ça qui est embêtant. Hyper toxique, hyper mortel, facile à faire, facile à faire. Selon une source au secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale. Pour preuve, on peut acheter. Ah là, il nous donne la recette. Qu'est-ce que c'est que cet article? L'article nous donne la recette du poison. C'est censé être le journal des bonnes nouvelles. Oh, les mecs, ils nous donnent un tuto. Moi, je dis non. Attendez, j'essaie de raccourcir mon titre là. Hop. Je dis non, le Parisien. Qu'est-ce que je dis aux Parisiens? Les gars, vous chiez dans la colle. Ça chie dans la colle. Ne prenez pas de notes. Il y a Joliot qui dit je prends des notes. Ne prenez pas de notes. Extrait des graines de ricin, une plante commune sur les îles de poudre s'avère aussi accessible que facile à élaborer. Allez! Pour preuve, on peut acheter 250 graines. 250 graines, pas 249, hein. 250 graines de ricin rouge à moins de 30 euros sur Amazon. Allez, pff. Le tuto! Le tuto poison! N'importe quoi. Voilà. Ça sert aussi à produire de l'huile totalement inoffensive. Donc vous avez en plus hein, le parfait alibi. Mais non, monsieur l'inspecteur, pas du tout. Hein. C'était pour faire de l'huile totalement inoffensive. Vous reprenez les mots du Parisien, ça marche très bien. Hein. Et des tutos de fabrication du poison circulent sur Internet. Ok, le Parisien vous dit où acheter les graines, le fournisseur, le site Internet, les tutos, voilà. Eh ben, c'est du propre. Eh ben, c'est du propre. Voilà, ingestion, inhalation, injection, tous les modes de dispersion sont potentiellement dangereux. Ok, bon, si j'ai des fous du bus dans le chat, je pense que c'est en train de prendre des notes très très fort. Mortel si elle est bien dosée. Cette toxine fait partie des risques bioterroristes les plus redoutés par les autorités françaises. Même s'il n'y a jamais eu d'usage à grande échelle, c'est une menace très actuelle, observe-t-on. Il ne se passe pas 6 mois sans qu'elle ressurgisse dans l'actualité cette menace du ricin, notamment lors de coups de filet antiterroristes. À Cologne, en 2018, la police allemande a ainsi démantelé un laboratoire clandestin qui préparait une attaque biologique dont les membres avaient fait allégeance à Daesh. Et vous êtes nombreux à me dire qu'il y a un épisode de Breaking Bad sur cette histoire. Ça a été un tournant, témoigne effectivement la même source au SGDSN en France, la recherche d'un antidote. Moi, longtemps, j'ai dit une antidote. Moi, je pense qu'on est beaucoup à faire la faute, non ? Mais c'est un antidote. La recherche d'un antidote encore inexistant devient alors une priorité. Les travaux de Fabentech, une start-up lyonnaise, s'accélèrent, spécialisée dans le développement et la production de traitements d'urgence contre le bioterrorisme. Bah dis donc. Cette entreprise d'une dizaine de salariés reçoit alors le soutien de la Direction Générale des Armées, qui l'a repéré 3 ans plus tôt, du SGDSN, du Service de Santé des Armées et de l'Union Européenne. Voilà. C'était d'utilité publique, explique le ministère des Armées. Il y avait une lacune thérapeutique. Il y a mon amoureuse qui m'envoie un message. Oh. Mais on... Ah, ils prennent un café. Oh, ils sont trop choux, les deux, là. Parce que les enfants sont à l'escalade ce matin. Ce matin, Hélène gère l'escalade. Et moi, je gère les anniversaires cet après-midi. Pardon. Et donc, il y avait une lacune thérapeutique au niveau mondial. En concurrence avec les Britanniques et les Américains, et tac ! Eux aussi lancés dans la fabrication d'un antidote, Fabentech mise sur les équidés, donc les chevaux, pour mettre au point sa technologie polyclonale. On prend un peu de toxine de ricine, on la modifie pour l'inoculer au cheval. Ah oui, on la modifie quand même, oui. Oui, j'espère qu'ils n'ont pas tué des chevaux. Hein, qui en réaction fabrique un cocktail d'anticorps. Ok, décrypte un expert. On récupère du plasma en vrac, on le traite, le filtre, le purifie afin qu'il soit sain pour l'homme, on le conditionne dans une poche ou un flacon et l'antidote est prêt. Le procédé paraît simple, mais la recette de cuisine est compliquée. Alors c'est intéressant parce que manifestement il est très compliqué de produire l'antidote alors qu'il est super simple de produire le poison. C'est embêtant. Elle est surtout probante, ça fonctionne. Un vrai remède de cheval. On valide le jeu de mots, le trait d'esprit de Nyx. Et le médicament, donc reçu le 5 janvier, on parle pas de faribole aussi, on parle de choses vérifiées, l'autorisation de mise sur le marché, qui donc ouvre la voie à sa commercialisation en France et à l'étranger. Une première mondiale et une success story française, se félicite-t-on au ministère des Armées, en mettant en avant le partenariat civil-militaire. Merci à Alan qui nous envoie de l'amour, tout l'amour, le moteur du monde, rappelons, et qui nous écrit dans le chat un instant « Salut, je t'aimais beaucoup sur Motus ». Merci beaucoup, Alan. Pardon. Donc, une success story française. Nous avons mis au point le Rafale de la santé. En quelque sorte, s'enorgueillit l'expert, faisant allusion à l'avion de chasse fabriqué par Dassault. Bon, je suis pas sûr du rapprochement, mais bon, peu importe. Fabentech, qui travaille désormais sur d'autres projets similaires classés secret défense, compte aujourd'hui 50 employés. Alors que le coût de la recherche et du développement d'un nouveau médicament est estimé en moyenne à 1 milliard d'euros, eh ben non. Il n'aura fallu que 15 à 20 millions d'euros selon différentes sources pour créer cet antidote. Voilà. Bravo pour ta carrière sur Dallas, me dit Alex Souksou. Alors, enfin. C'est fou parce que c'est quand même un pan de ma carrière qui est passé totalement inaperçu. Personne ne m'en parle jamais alors que j'ai quand même marqué l'époque. Dans cette série, les jeunes, vous ne connaissez pas. Dans cette série qui était diffusée, je crois, sur TF1 à l'époque. J'ai eu un succès de fou. Voilà. Dans le personnage de Bobby. Bobby Ewing. Tout le monde m'a oublié. Voilà. Alors, je vous rappelle quand même, bon, là, j'ai un peu changé parce que c'est pas sur un plan capillaire, la mode a évolué. Voilà. Mais Bobby Ewing, le gentil. Où suis-je encore? Oui, là sous la douche. Ici. C'était moi. Voilà. Donc, alors pour ceux qui nous écoutent en audio, je suis en train de montrer des images de cette époque avec Bobby Ewing. Alors c'est marrant parce qu'on me parle très très peu de ma carrière au cinéma, alors que quand même ça a été un vrai investissement, tu vois. Puis d'une prise de risque aussi artistique, comme dans un autre film auquel je joue aussi, que je vais retrouver la photo. C'était un tournage assez intense qui m'a demandé beaucoup de préparation physique. Je vais vous rechercher ça. C'est pareil, personne n'en parle jamais, ça. Ouais. Ah, attends, je vais essayer de trouver des photos. Ah, je crois que je l'ai. Là. Voilà, alors il y avait plein de photos de tournage là. Voilà. Il y a un petit film que j'ai fait il y a longtemps déjà, qui s'appelait 3. 3, pas 3, mais T-R-O-I-E, 3, comme 3 dans. 3, quoi. Voilà. Et voilà. Et ça a été un gros travail de préparation physique. Ah, j'étais plus jeune, hein, j'étais plus scintillant, j'étais plus lumineux, hein, c'est sûr. Voilà. Mais alors, je parlais du travail de préparation physique. Ah ouais, bah ouais, j'ai pris du bedouin. Ah, j'ai un peu pris. Voilà. Donc merci à la personne qui a salué ce passé cinématographique. Je reviens donc à mon article quand même, parce que là nous avons fait un petit pas de côté. Voilà. La direction générale des armées a passé commande donc de cet antidote au ricin, explique l'état-major, et le ministère de la Santé s'apprête à faire de même, probablement imité dans les mois à venir par les États européens ou membres de l'OTAN. Reste maintenant à bien répartir le produit aux quatre coins du pays. Pour être efficace, il doit être administré 4 à 6 heures après l'exposition à la ricine. Ah ouais, c'est fou, hein. 8 à 10 graines suffisent à tuer. C'est de la saloperie, ça. Hein. Attention à l'auto-empoisonnement. Hein. Il y a un spécialiste, là, c'est un médecin. Chef du service de pharmacologie et toxicologie à l'hôpital Raymond Poincaré de Garges dans les Hauts-de-Seine. Que dois-je faire si j'ai avalé de la plante de ricin, voire de la ricine par mégarde? Il faut aller aux urgences le plus vite possible, même sans symptômes. Les traitements sont proposés pour faire en sorte que l'organisme n'absorbe pas la ricine, comme du charbon actif ou un lavage d'estomac. Cette substance en tant que telle n'est pas facile à identifier dans un organisme, mais on peut chercher de la ricine, marqueur très efficace d'une intoxication. Donc c'est vraiment une saloperie, ça. Les symptômes, si vous ingérez de la ricine sans faire exprès, nausées, vomissements, diarrhée et hématémèse. C'est-à-dire vous commencez à vomir du sang. Bon, je pense que nous sommes des gens raisonnables. Quand on commence à vomir du sang, je pense qu'il faut consulter. Ok. Saloperie, ça. Alors, attention. L'huile de ricin n'est pas toxique. Ce sont les graines de ricin. La molécule n'est pas soluble dans l'huile. Certains me parlaient de l'huile de ricin tout à l'heure. Ce sont les graines. D'accord ? Voilà. Il y a des gens qui me parlaient de l'huile de ricin, mais je ne sais pas à quoi ça sert. Ça sert à quoi, l'huile de ricin ? Ça se vend partout pour faire pousser la barbe. Mais Sugar, t'as pas de barbe, toi ? Je mets de l'huile de ricin sur mes cheveux perso. C'est bon pour les cheveux. Ouais, ben manifestement, j'en ai pas mis beaucoup, moi. T'as pas de barbe, Sugar, donc ça marche pas, ton histoire. C'est beaucoup pour les soins capillaires. Ok. Et les ongles. Ah ouais, ça fait... J'ai une question pour un ami. Un ami très proche. Est-ce que l'huile de ricin peut faire repousser les cheveux qui ne poussent plus? C'est pour un ami. Juste comme ça, les gens. Ça épaissit le cheveu? Ah ouais. Non. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Oui, ça épaissit. Oui, ça, bah, en fait, ça graisse le cheveu, quoi. Ouais. Donc, t'as un cheveu, tu mets du gras dessus, du coup, il est plus gros. Ouais, ouais, ça a l'air très intéressant. Ouais. Ok. Ok, super. Bon, on dirait du caca, votre truc. Ok. Ça permet la croissance et le renfort, mais pas la repousse. Ok. Il y a une Mester qui dit ça épaissit que les cheveux ou ça marche pour autre chose. Ok, on passe à autre chose. Ok, deuxième article ce matin, deuxième bonne nouvelle. Comment la science prépare les vaccins du futur? C'est l'occasion des 200 ans du Figaro. Le Figaro s'est penché en début de semaine sur 200 ans de médecine et a fait une série d'articles sympas. Comment la science prépare les vaccins du futur? Accéléré par la pandémie de Covid-19, la recherche travaille désormais sur des vaccins capables non plus seulement de prévenir les infections, mais aussi de traiter des pathologies, de guérir, quoi, vaccin, moi j'appelle ça un vaccin curatif, mais c'est peut-être pas la bonne expression. De la rougeole au Covid-19, les vaccins ont profondément transformé la santé publique mondiale. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, ils ont permis de sauver 154 millions de vies en 50 ans, contribuant à une baisse de près de 40%, notamment de la mortalité infantile. Longtemps perçue comme une technologie arrivée à maturité, la vaccination connaît pourtant une nouvelle accélération. La validation à grande échelle des vaccins à ARN, dont on a beaucoup parlé pendant la crise sanitaire du Covid-19, a mis en lumière une nouvelle manière de concevoir les vaccins. Jusqu'alors, développer un vaccin impliquait de produire et de purifier des protéines complexes ou d'utiliser des virus atténués. Hein. Ça, on connaît. Or, ces procédés sont longs, rigides et difficiles à personnaliser. Avec l'ARN, le principe est inversé. Alors, je vais essayer de me concentrer parce que je ne comprends en général rien à ces sujets. Il suffit de fournir aux cellules une instruction génétique temporaire pour qu'elles fabriquent elles-mêmes la protéine d'intérêt. Ok ? Que vous connaissez tous. Une même base d'ARN peut être utilisée pour des vaccins très différents, rendant possible le développement de vaccins en moins de 2 mois, ça c'est quand même une révolution, et en ouvrant la porte aux vaccins personnalisés. C'est une technique particulièrement prometteuse contre les cancers en cancérologie. Un fragment de la tumeur est prélevé, son ADN séquencé, puis les mutations les plus susceptibles de déclencher une réponse immunitaire sont sélectionnées pour fabriquer en quelques semaines un vaccin à ARN spécifique contre les tumeurs, pas contre ce cancer-là, mais contre les tumeurs du patient. Voilà, c'est ça la révolution. C'est marrant parce que je prends un ton très concerné, comme si je comprenais ce que je suis en train de lire, alors que pas trop, bien sûr. Hein ? On n'est pas dupes, mais bon, vous peut-être, alors je continue. Ces derniers vont apprendre au système immunitaire à identifier et éliminer les cellules cancéreuses que l'organisme n'a pas su reconnaître jusque-là. Chaque vaccin anti-cancer est vraiment personnalisé pour chaque patient, mais cela nécessite une production très rapide, ce qui n'était pas possible avant l'utilisation de l'ARN. Explique le professeur Eric Tartour, chef du département d'immunologie des hôpitaux Georges Pompidou et Necker. Il y a un Fiu dans le chat qui me dit « J'ai aussi cette capacité de lire hyper fluidement un truc que je ne comprends pas du tout. » Ben moi, c'est mon talent, moi. Hein, ça fait 30 ans que je vis là-dessus, moi. 30 ans que je lis des choses en JT, à la radio, en télé, sur Twitch. Je ne comprends pas un traître mot de ce que je raconte. Hein, tout ça est de la phonétique pour moi. Mais j'ai cette capacité à lire plutôt vite et à donner l'impression que globalement, je comprends. En fait, pas du tout. Mais ça, les habitués le savent. Utilisés en complément des traitements standards, ces vaccins sont administrés après la chirurgie d'une tumeur à haut risque afin de réduire la probabilité de récidive plutôt que de traiter des cancers très avancés. De Messimp essaie de m'expliquer, en gros, Sam, on fait fabriquer temporairement à nos cellules les protéines reconnues par le système immunitaire. D'accord. L'objectif prioritaire n'est pas de traiter des tumeurs massives, mais d'empêcher la réapparition de la maladie. Hein, le vaccin sert à stimuler le système immunitaire, dit Zveida. D'accord. Des essais de phase 3 sont en cours contre le mélanome, par exemple, le cancer de la peau. Alors ça, c'est important, ça. Hein, pour lesquels les options thérapeutiques restaient limitées. Espoir ! Espoir ! Au-delà du cancer, ces stratégies de vaccination, non plus de prévention, mais de traitement contre des maladies chroniques, ouvrent des perspectives plus larges. Hein, des recherches explorent déjà l'utilisation de vaccins. Alors, on les appelle les vaccins thérapeutiques. Hein, dans certaines maladies métaboliques ou inflammatoires, comme le diabète de type 1. Hein. Sauf que pour avoir un rendez-vous chez le Desmarteaux pour prévenir les mélanomes, bonne chance. C'est vrai, c'est compliqué. Pourtant, t'es en région brésilienne, Sugar. Merci, Gaspierre. Moi, tous les 2 ans, je fais une petite visite chez le Desmarteaux pour regarder un petit peu où on en est. Et ça se fait. Ah ouais, plusieurs mois d'attente. Ok. Plusieurs mois d'attente pour les dermatos. Mais ils veulent votre peau ou quoi ? Désolé. Donc, des espoirs contre le diabète de type 1 ou l'hypercholestérolémie, où l'immunité joue un rôle clé dans la progression de la pathologie. Ces pistes de recherche sont encore à un stade précoce. Bon, vous êtes plusieurs à me dire que c'est compliqué dans plusieurs régions en France, effectivement, d'avoir un rendez-vous chez le dermato et voire même chez le médecin tout court. Merci, Desfalmes. Alors, en gros, ça, pour t'expliquer, les cancers sont des cellules détraquées. Hein. Alors tu mets des guillemets parce que tu essaies de m'expliquer simplement. On analyse ces anomalies, donc ARN, on corrige, on réinjecte ces corrections d'erreur avec ces fameux brins d'ARN qui vont se recombiner avec l'ADN et le réparer. Alors là, bravo. Moi, j'ai envie d'épingler ton... Putain, j'ai perdu mon... J'ai envie d'épingler ton message parce que je le trouve assez clair pour les gens comme moi. Merci. Merci des femmes. Moi, je l'épingle. Voilà. Évidemment, tu as vulgarisé pour moi, mais merci beaucoup. Ok. Cette montée en puissance de l'ARN, donc, alimente parfois l'idée que cette technologie pourrait à elle seule résoudre l'ensemble des défis vaccinaux. Le professeur Bruno Pitard, directeur de recherche en immunologie au CNRS, grand spécialiste de cette technologie, se montre plus prudent. Hein. Ouais, il y a Hamlet du fromage qui dit « En gros, le vaccin, c'est comme une mise à jour. » Ouais, c'est pas mal, ça. Ouais. On va vers quelque chose de plus personnalisé, plus sophistiqué, plus contrôlé, plus maîtrisé. Hein, mais il faut rester rationnel, explique-t-il, pour beaucoup de maladies. Le problème, ce sont les antigènes. Or, tant qu'on ne les a pas identifiés, on ne peut pas faire de vaccin. À rebours de la vaccination classique, les vaccins dits inverses suscitent aussi beaucoup d'espoir, Kesako. Contrairement aux vaccins classiques, ils ne cherchent pas à augmenter l'immunité, mais plutôt à éviter qu'elle ne s'emballe, voilà, et à empêcher les réponses immunitaires excessives. Ces approches vise à traiter des pathologies dans lesquelles le système immunitaire s'attaque à tort aux cellules saines de l'organisme, comme certaines maladies auto-immunes ou les allergies. Maladies auto-immunes dont parlait tout le temps le docteur misanthrope, là, qui aimait pas les gens, là, comment il s'appelle ? Auto-immune, il avait que ça à la bouche. Est-ce que vous avez exploré la thèse, la piste de la maladie auto-immune ? Non, pas docteur Raoul. Non, docteur House. Oh, vous êtes bête. Vous êtes bête. Oh, ils sont bêtes. Vous êtes bêtes. Non, docteur House. Mais oui, avec sa canne, là. C'est un lupus, mais oui. Non, pas docteur Maboul. Docteur Maboul, c'est celui qui fait... Quand tu touches les petits trucs, faut pas toucher, là. Quand tu retires les petits œufs. Non, docteur Maboul, j'en ai un à la maison. Non, c'est pas ça. Donc ce ne sont pas des vaccins au sens traditionnel, mais des stratégies de modulation ciblée du système immunitaire. Explique le professeur, pionnier de ces approches qu'ils explorent notamment dans le cadre de la maladie d'Alzheimer. C'est intéressant. L'objectif est d'induire une tolérance spécifique sans provoquer d'immunosuppression globale. Salut Azuki. Contrairement aux traitements actuels, on ne bloque pas tout le système immunitaire. On agit de manière très spécifique uniquement sur les cellules qui reconnaissent l'antigène impliqué dans la maladie. C'est vachement intéressant. Si le champ des maladies concernées est vaste, de la sclérose en plaques au diabète de type 2, ce sont aujourd'hui les allergies qui concentrent les travaux les plus avancés. On observe aujourd'hui une véritable explosion des désordres immunitaires, qu'il s'agisse des maladies auto-immunes ou des allergies. Les allergies, notamment à la pollution au pollen, c'est parfois une hyper-réaction de l'organisme, non ? En Europe, autour de 30% de la population souffre déjà d'allergies et certaines projections... Je suis sûr dans le chat, il y a plein de gens qui sont concernés. Projection évoque jusqu'à 50% des habitants concernés à l'horizon 2050. Or, les solutions actuelles restent limitées. Hein. La désensibilisation n'est pas toujours efficace sur le long terme. Dans ce contexte, le développement de stratégies de vaccins tolérants pourrait représenter une avancée extrêmement prometteuse. Très intéressant. Mais encore une fois, hein, ce n'est pas pour tout de suite, ces traitements sont encore dans les premières phases de développement. Au-delà de ces avancées prometteuses, les chercheurs travaillent également très activement pour trouver de nouveaux modes d'administration, que ce soit pour augmenter leur efficacité ou leur acceptabilité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne va plus nous piquer, c'est ça ? Des dispositifs comme les patchs transcutanés ou les sprays nasaux peuvent lever la barrière de la piqûre et rendre la vaccination beaucoup plus simple, notamment chez les enfants. Alors là, bah, les gars, voilà le vaccin sans piqûre. Bah non, pas en suppos, qu'en dira-t-on ? Non, on a dit plus acceptable. Plus acceptable. Ah non. Eh les gars, bonne nouvelle. Y a pas de piqûre. Ouais ! Je vais vous mettre un gros suppos. Oh, tu vois ? Bah non. Non, le patch plutôt. Le spray. Notamment les enfants. Les patchs ont également pour avantage de permettre une administration prolongée de l'antigène sur plusieurs jours, avec des effets favorables sur la réponse immunitaire. On a montré que délivrer une protéine vaccinale de façon progressive est plus efficace que de l'injecter en une seule fois, précise le chercheur. Ce type de vaccin pourrait donc avoir une durée d'action plus longue et être plus efficace. Le choix de la voie d'administration relève toujours d'un compromis, résume l'immunologiste. Il s'agit de trouver l'équilibre entre l'efficacité biologique du vaccin et sa capacité à être diffusée largement dans sa population. Il y a Wrong Life qui dit « Suppo, moi ça me va, c'est quoi le problème ?» Écoute, on juge pas, hein. C'est perso. Je veux dire, le rapport au suppo, je veux dire, il n'y a pas de... On est... Comme... Oui, chacun ses kings. Je veux dire, il n'y a pas de... On ne juge pas ici. C'est chacun son... Voilà. Chacun ses petits plaisirs. Voilà, c'est dit. Bon, on continue. Mais il faut se méfier, écrivain a raison, des suppos de Satan. Voilà, on les connaît. Donc, les modes d'administration par spray offrent également des perspectives intéressantes grâce à leur action localisée. Hein. Aujourd'hui, la plupart des vaccins contre des pathogènes respiratoires sont systémiques. Ils protègent très bien contre les formes sévères en agissant au niveau du poumon, mais ils induisent peu de réponses au niveau des muqueuses de la sphère ORL. Voilà. Porte d'entrée de ces maladies. Les gens continuent donc à être infectés, même s'ils font moins de formes graves, ce qui donne l'impression que le vaccin ne marche pas. Des vaccins efficaces directement au niveau des muqueuses permettront de mieux bloquer l'infection et la transmission et donc d'améliorer l'immunité de groupe. Hein ? Ces modes d'administration sous forme de spray seraient particulièrement adaptés face aux infections respiratoires, grippe, VRS ou SARS-CoV-2, dont on a parlé cette semaine avec un médecin d'ailleurs sur cette chaîne. Il y a des spécialistes du suppo, hein, dans le chat. Hésiode, deux points, ouvrez les guillemets. La partie affinée est faite pour pousser naturellement le suppo, donc on le met côté extérieur. Rien compris. Ok. C'est quoi cette passion suppo? Alors, adepte, comment te dire? Ah oui, bah oui, mais là, on est sur un problème de géographie du corps. Adepte JDR écrit dans le chat, les suppos, c'est bien trop gros pour mon nez. Oh là là, l'image, la scène. Pff, mon pauvre. Ah non, ne me dis pas que tu as essayé. Ça va être très désagréable. Oh, j'ai l'image. Oh, j'ai l'image. Hein ? On doit mettre le gros bout devant, dit Wrong Live. Attendez, excusez-moi, Rachel, vous me parlez toujours de suppos, là, je suis perdu, là. Hein ? Salut Bouilleux. Et là, et voilà. Et on parle. Alors, est-ce que c'est un hasard ? Moi, je dirais non. Hein. Ici, on aime les pseudos. On parle de suppo. Et comme par hasard, il y a Bouillotte de Slip qui vient d'arriver sur le live. On l'applaudit bien fort. Voilà. Comme par hasard. Hein. Nous sachons. On sait très bien ce qui se passe. Voilà. On parle de suppo. Qui débarque ? Bouillotte de Slip. Mais oui, c'est pas calculé. Bien sûr. Et tu vas appeler, on vous connaît, hein, tu vas appeler tes petits amis aussi, hein, ça fonctionne en réseau, hein, vous êtes en réseau sur Discord ou sur Facebook Minitel, parce que parfois, c'est plus ancien, et je sais, vous donnez des infos comme ça, tiens, il a dit ça, faut débarquer en masse, et comme par hasard, on va avoir plein de gens qui vont débarquer, là, on vous connaît. On vous voit, hein, I see you, hein. Ouais. Donc je continue. Mais il serait aussi possible de prévenir bien plus en amont contre l'apparition de nouveaux virus. Beaucoup de crises sanitaires récentes sont d'origine animale. Si on veut anticiper, il faut vacciner au bon endroit, parfois même avant que l'homme ne soit concerné. On vaccine les animaux. Les avancées dans la prévention des maladies se trouvent aussi dans l'utilisation des vaccins pour animaux. Les zoonoses, ces maladies transmissibles entre animaux et humains, représentent 75% des maladies infectieuses émergentes. Pour contrer ces nouvelles infections, eh bien la vaccination s'inscrit donc de plus en plus dans une logique One Health. Je crois qu'il y a une chanson de U2 d'ailleurs là-dessus. One Health. Voilà. Cette stratégie de santé consiste à passer d'une vision très centrée sur l'humain à une prise en compte plus globale des systèmes écologiques dans leur ensemble. C'est vachement intéressant. car la santé des humains dépend en fait bien plus étroitement qu'on ne l'imagine de celle des animaux d'élevage, de la faune sauvage, des écosystèmes. Ah ! Hein ? La France a éliminé la rage grâce à la vaccination des renards, démontrant qu'on pouvait protéger l'homme en intervenant sur la faune sauvage d'abord, souligne le professeur Lelièvre. D'autant que le changement climatique accentue le risque de développement de ces zoonoses, la migration d'espèces vectrices de maladies, telles que les moustiques, saloperie ça, favorise l'émergence en France métropolitaine de maladies autrefois absentes ou rares comme le chikungunya ou la dengue. Dans ce contexte, la vaccination des animaux, comme pour la peste bovine ou la grippe aviaire, mais aussi le développement de vaccins humains-animaux, pourrait devenir des outils essentiels pour prévenir de nouvelles pandémies. Ça, je trouve ça vraiment passionnant. Pas con. Icanatruc. Il faudrait vacciner les moustiques, je pense. Pas con, pas con. Eh, chacun son tour, hein. Ah, les moustiques. Les femelles, on rappelle, les mâles ne piquent pas. Les moustiques. Ah, vous aimez piquer ? À notre tour. Bon, de la patience et de l'habileté, bien sûr, et une toute petite aiguille. Mais, voilà, c'est pas bête, c'est pas bête. Hein ? Moi, je dis, la peur doit changer de camp. Voilà. Hein ? Quand l'été va arriver, là, on les voit, là, hein, à aiguiser leur petit truc, le, je sais pas quoi, le rostre, je sais pas quoi, comme ça, avec leurs petites pattes, là. Hein ? Là, moi, je dis, la peur doit changer de camp. Voilà. Hein ? Il faut terroriser les moustiques. Je crois qu'il y avait un ancien ministre de l'Intérieur, il y a longtemps, je me demande, c'était pas Charles Pasqua, qui avait dit, il faut terroriser, il avait un accent un petit peu du Sud, il faut terroriser les terroristes. Un truc comme ça, il avait dit. Pas con, Vranglave, il faudrait mettre le vaccin directement dans les moustiques, comme ça, ils iraient vacciner tout le monde. C'est pas bête. C'est pas bête. Eh, la qualité du chat, quand même, hein. Hein. Eh. Là, j'ai 2152 prix Nobel en médecine, hein, en puissance. J'adore. Des candidats vaccins, comme celui contre la fièvre de la vallée du Rift, qui est une maladie endémique en Afrique subsaharienne, en phase 1, sont conçus pour être utilisés à la fois chez l'animal et chez l'homme. Chez l'animal, mouton, bovin, chèvre et chez l'être humain. C'est fou. Salut Azuki. Aujourd'hui, les limites à une meilleure vaccination ne sont pas que scientifiques, elles sont aussi organisationnelles et politiques, explique le chercheur, rappelant que la prévention de ces zoonoses doit passer par une meilleure coordination entre santé humaine, vétérinaire et environnementale. One Health. Merci Kuzuraki. Non, Kurosaki, pardon. Aujourd'hui, fragmenté entre différents ministères et agences. Intéressant, non ? Salut Zeldam. Bah, bonne nouvelle plutôt, ça bosse quoi. Ouais. J'aimerais me réincarner en ratel, perso, c'est imbutable cet animal. C'est quoi un ratel? Un râteau, je connais. C'est quand tu vas au cinéma avec une fille et la fille vient pas. Ça, je connais ça. Le ratel. Mammifère carnivore de la famille des Mustélidés. Voilà. Réputé pour son comportement féroce et particulièrement tenace ainsi que pour son endurance, il est capable de tenir tête aux plus grands prédateurs comme les lions ou les hyènes tachetés. Ah oui, c'est un malade lui. Il est pour cette raison devenu une figure incontournable de la culture populaire de la sphère anglophone. Le ratel. Il a la capacité de courir en arrière. Fait uniquement partager avec l'être humain. Voilà. Il utilise... Internet. Attends, bah, je ne vous montre même pas la source. Il utilise d'ailleurs cette faculté dans sa célèbre danse du ratel. Moyen de défense consistant à effectuer un pas en arrière, puis deux en avant, lorsqu'il se retrouve face à un adversaire de taille. Et là, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut aller voir la danse du ratel, bien sûr. Il y a Sansoé qui dit « J'ai un élève qui est coiffé exactement de la même façon en ce moment que le ratel. » Donc, je tape « danse » sur Google, il me propose « danse avec les loups, danse avec les stars et danse du ratel. » C'est incroyable. La danse durera-t-elle ?
Nageo Wai.
Quoi ça ?
Deux premières années de leur existence, les ratels apprennent l'art de la défense. Ne jamais déguerpir pour rester en vie. Cette famille se jette tout droit dans une embuscade. Le plus jeune reste à la traîne.
Aïe !
Pour la lionne, il devient une proie facile.
Ah merde !
Le petit, là !
D'instinct, il met en pratique son apprentissage.
Un pas en arrière.
Son comportement est caractéristique. L'attaque à reculons. La stratégie d'un David face à un Goliath.
Ah ouais ! Ah oui, recule !
Le jeune ratel surprend la lionne. Il n'envisage pas de la combattre, mais cherche seulement à gagner du temps pour préparer sa fuite. Lorsqu'il croise une meute de lycaons, la plupart des animaux détalent. Le ratel, lui, se comporte à l'inverse.
Oh, 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 le fou !
Il se jette sur ses prédateurs deux fois plus gros que lui.
Allez ! Bah, il court après !
L'attaque est la meilleure des défenses.
Incroyable. Ah ouais, ouais. C'est génial. C'est drôle. Hein. Il y a Yiflin qui dit... Oh, tout de suite la polémique. On dirait des viewers qui propagent des fake news et devant leur responsabilité, ils disent n'importe quoi et fuient le dialogue. Mais non, pas du tout. C'est le ratel, quoi. Voilà, c'est... Hein ? Dans, il y a des vidéos, ils s'attaquent même au lion. Ah, c'est incroyable. Ok. Bah non, comme le dit Boubou, ça n'arrive jamais, ce genre de viewer. Sûrement pas sur ma chaîne. Je pense que vous confondez. Donc, ok. Intéressant. On reste dans le Figaro. On reste dans 200 ans de médecine. Et on a un coup de projecteur dans le Figaro sur... Alors, le titre est un petit peu mystérieux. Toc. Sur... L'interface cerveau-machine, moi c'est ce que j'ai mis en avant, contre le handicap. Mais le titre dit « Le petit club très fermé de ceux qui pilotent un ordinateur par la pensée ». Alors j'étais un peu surpris. Hein. Et l'article nous explique « Aujourd'hui dans le monde, il y a moins d'une centaine de personnes, donc effectivement c'est un petit club, qui bénéficient d'une interface cerveau-machine leur permettant de récupérer des fonctions perdues lors d'un accident ou d'une maladie. Il s'appelle Marc, Anne ou Gerjan et souffre d'une sclérose latérale amyotrophique, d'un AVC ou d'une lésion de la moelle épinière. Leur point commun, ils font partie du tout petit club des gens dotés d'un implant cérébral, qu'on appelle aussi interface cerveau-machine, ou IBCI pour Implantable Brain Computer Interface, qui leur a rendu le contrôle de leurs bras, de leurs jambes, la parole ou la faculté de naviguer sur Internet. À ce jour, il serait moins de 100 dans le monde à avoir reçu ce genre d'implant, selon une liste établie par les auteurs d'une revue de littérature publiée durant l'été dans Advanced Science. Si les dispositifs sont variés, le principe est toujours le même, des électrodes. Comment ça marche ? Placées dans le cerveau, chargées de recueillir les signaux neuronaux, voilà, qu'un algorithme est ensuite capable de traduire en gestes. C'est assez fascinant. Cela ne fait qu'une dizaine d'années que quelques pionniers se sont aventurés sur cette voie pour rendre à des patients un peu de l'indépendance qui leur a été volée par un accident ou par la maladie. La première publication relatant la plantation d'un tel dispositif sur un patient humain date de 1996, donc c'est assez récent. Mais plus de la moitié des 112 études que les chercheurs ont épluchées ont été publiées depuis 2020. Voilà. Franchement, c'est génial, me disait le dame, je vois des patients atteints de SLA. C'est une maladie atroce. C'est quoi la SLA ? Sclérose latérale amyotrophique, maladie neurodégénérative. Ok. Ah oui, ça c'est une saloperie ça. Ah oui, qu'on appelle aussi dans le monde francophone la maladie de Charcot. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Donc, premier dispositif testé en 96, mais plus de la moitié des 112 études que les chercheurs ont épluchées ont été publiées depuis 2020. Vous voyez, c'est assez récent. L'idée de contrôler le monde grâce aux signaux neuronaux n'est pas neuve. Dans les années 60, le physicien Edmond Dewan entraîne des volontaires à piloter une lumière, envoyer des messages en morse ou frapper sur des percussions par le biais d'un électroencéphalogramme, hein, c'est-à-dire un réseau d'électrodes posées sur le crâne qui détecte les ondes cérébrales. Les prouesses surprenantes à l'époque, mais limitées, on est dans les années 60, le jet ne capte qu'un brouhaha neuronal et ne retranscrit pas toute la complexité de l'activité cérébrale. Bon, après, nous, on a envie de répondre à scientifiques, complexité cérébrale, ça dépend des sujets, mais bon, c'est pas le sujet, justement. Dans les années 80, les premières implantations d'électrodes sont réalisées chez des patients atteints de la maladie de Parkinson. C'est la stimulation cérébrale profonde. Pourquoi le stream de Sam est le seul que je peux pas caster sur ma TV ? Bah, il n'y a aucune raison, Gifenouille. Moi, je suis comme les autres, moi. Bah non. Vraiment, il n'y a aucune raison. Moi, je suis un garçon comme les autres. Hein ? Je... Voilà. Ça marche chez vous, Sam, sur la télé ? C'est possible ou pas ? Si tu as une Smart TV, installe l'appli, ça va plus vite. Moi, chez moi, Niket & Movies, Samsung, ça marche très bien. Et Twitch sur la télé. T'es sur ma télé perso, me dit Maxou. Trop beau pour être à la télé, c'est tout. Hein, quoi ? Ok, donc ça semble marcher quand même. Ok. Mais il faudra attendre que l'informatique et l'intelligence artificielle soient mûres pour qu'inversement, ce soit les signaux émis par les neurones qui soient décryptés et permettent au porteur de l'implant d'interagir avec son environnement. Désormais, vous avez plusieurs types de dispositifs qui coexistent. Réseau de micro-électrodes, hein, MEA, généralement 96 électrodes, hein, parfois beaucoup plus, implantés à l'intérieur du cortex. Mais alors concrètement, on ouvre là, comment ça se passe ? Électrodes posées sur ou sous la dure mère qui enveloppe le cerveau, moins invasive et de plus en plus performante. Et plus récemment, électrodes endovasculaires intégrées à des stents posés dans le réseau sanguin, donc ne nécessitant pas d'intervention neurochirurgicale et permettant de cibler des régions très profondes du cerveau. C'est fou. C'est fou. Peu d'équipes dans le monde réunissent les compétences d'ingénierie, de neurosciences, de neurochirurgie nécessaires au développement de dispositifs aussi complexes. Deux équipes françaises, francophones, pardon, se distingue. À Grenoble, vous avez le centre de recherche Clinatech qui a initié un programme en 2008. Voilà. Nous avons développé l'implant Wimagine. Le Ki 13 me dit, il y a combien de mots que tu n'as pas compris dans ce texte, Sam ? Tous. Littéralement tous. L'implant Wimagine, en faisant le pari d'une approche semi-invasive mais totalement implantée, nos électrodes mesurent l'activité à la surface du cortex moteur et tous les éléments électroniques tiennent dans un petit boîtier qui remplace un morceau de l'os du crâne. Voilà. Aucun fil ne sort du crâne, c'est bien. Et une simple casquette téléalimente l'implant lors de l'utilisation. Okay. En 2017, le premier patient a été implanté. En 2019, il a pu contrôler un exosquelette de 4 membres. C'est fou. Hein. Framboise me dit, j'ai un ami qui travaille sur de l'IA sur les électrodes implantées dans le cerveau avec des résultats sur les épileptiques. Aujourd'hui, les chercheurs tentent de permettre le contrôle de différents effecteurs comme un bras robotisé ou un dispositif de stimulation neuromusculaire pour permettre aux patients de manipuler des objets. L'objectif est que le système soit utilisable à domicile en toute autonomie. C'est génial. Autre équipe très en avance, celle de l'école polytechnique de Lausanne en Suisse avec à sa tête un neuroscientifique et une neurochirurgienne. Leur dispositif permet à des patients paraplégiques de remarcher. Il associe l'implant du CEA Clinatech et un autre implant situé sur la moelle épinière qui envoie des impulsions aux muscles des jambes sur commande du patient. La phrase est folle. Hein, permet à des patients paraplégiques de remarcher. Le tout premier patient a été opéré en 2021, donc c'est très récent. Hein, en tout, nous avons implanté 6 personnes qui sont rentrées chez elles et peuvent utiliser le système en toute autonomie, nous sommes les seuls à permettre cela. Waouh. Waouh. T'as envie de dire waouh, quoi. Captain Oui, c'est intéressant. Hein. Les interfaces cerveau-machine ont investi d'autres domaines. Aussi, par exemple, cette femme qui, en 2022, a retrouvé la parole perdue 18 ans plus tôt à cause d'un AVC. Il y a quelques années, je pensais que la première application serait de restaurer le mouvement, mais je crois désormais que la Kill App portera sur la parole, explique un chercheur. Je ne pensais pas voir ça de mon vivant. Je ne comprends pas. Ils reprennent le contrôle de leurs jambes ou ils ont une prothèse mécanique? Bah, Icanatruc, j'ai l'impression que là, ils reprennent le contrôle de leurs jambes, puisqu'on parlait de muscles. Hein? Je ne pensais pas voir ça de mon vivant, dit le chercheur, tellement il est difficile de décoder les signaux neuronaux liés aux mots. Mais de même que ChatGPT comprend très bien ce qu'on lui écrit, même si on fait des fautes, les grands modèles de langage sont capables, à partir d'un décodage neuronal assez mauvais, de reconstruire des phrases parfaites. Des dispositifs resteront la capacité à parler approche désormais le rythme d'une conversation naturelle, 160 mots par minute, mais il faut encore avancer sur les informations paralinguistiques, hauteur, cadence, volume. Autre défi est de taille, assurer le retour des multiples informations que nous apporte le toucher et le sens nommé proprioception qui nous permettent de toujours savoir où notre corps se situe dans l'espace, des sens essentiels à chacun de nos gestes, le plus souvent même sans que nous en soyons conscients, mais que la science a du mal aujourd'hui à rendre à ceux qui l'ont perdu. Pour le toucher, c'est important le toucher. On a une idée de ce qu'il faut faire, estime Luc Estebanez, un chercheur. À la surface du cortex, la représentation topographique est cohérente et connue depuis longtemps. Si on stimule électriquement cette zone cérébrale, les gens perçoivent une stimulation tactile sur la région du corps correspondante. C'est fou! Mais cela reste très basique et encore difficile à mettre à l'œuvre chez l'homme. Quant à la prioception, des travaux sont en cours chez la souris. Le concept serait en théorie transposable à l'homme, car le cortex somatosensoriel est une zone présente chez tous les mammifères et juste à côté du cortex moteur. Si quelqu'un a une réponse à apporter à Midom sur la recherche de formations courtes en matière de santé, n'hésitez pas, ce serait sympa. Mais il ne s'agit encore que de spéculation. Quant à l'homme augmenté, donc ça c'est autre chose, vous savez, voilà, c'est un autre sujet. Salut, bien. Oh, ton message est trop mignon, bien tantôt. Ah, on est bien là, tu vois. C'est un très bel univers, tu vois. Est-ce que ça marche sur les cons? Demande Petit Nano. Ah oui, parce que oui, ça part du cerveau, donc. Après, la bêtise, c'est très relatif, la bêtise. La bêtise. On est toujours le bête de quelqu'un d'autre. Regardez. Sur les réseaux sociaux, comment les gens s'insultent sans arrêt. Au nom de leur valeur, de leur vérité. Voilà. On est toujours le con d'un autre, tu vois. Quant à l'homme augmenté, tiens, justement, rêvé par l'Américain Elon Musk, il n'est pas pour demain. Les dispositifs testés ne le sont que dans des essais cliniques et aucun n'est prêt à passer le fil des autorisations réglementaires. C'est un peu encadré tout ça quand même. Clairement, la technologie n'est pas du tout mature pour le rêve transhumaniste de Musk, juge Grégoire Courtine, mais c'est le genre de prédiction que je n'aime pas faire. La chirurgie plastique, par exemple, est née pour réparer les gueules cassées. Hein, les soldats de la Première Guerre mondiale, de retour dans la vie civile, puis a permis l'essor ensuite de la chirurgie esthétique. Aujourd'hui, avec des implants neuronaux, on répare l'homme abîmé, mais si ces technologies deviennent très robustes et sûres, il pourrait être difficile de ne pas aboutir un jour à une sorte de neurochirurgie cosmétique. Et là, on parle de l'homme augmenté. Genre un implant qui permettrait de comprendre tout ce que je viens de lire. C'est fascinant. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est fascinant, non? Fascinant et terrifiant à la fois, dit Sugar. Alors, Bayriac a répondu à la personne qui cherchait des formations courtes en matière de santé. Technicien de laboratoire, de recherche ou à l'hôpital, c'est pas le même métier, attention. BTS, licence pro, aide-soignant, infirmier, le paramédical, préparation en pharmacie. À ce propos, d'ailleurs, hier soir, en sortant de la soirée Valo, ici, je sors du studio, voilà, et un homme me regarde, un homme me toise. Bon, il est minuit, 23h30, c'est la nuit. Tu te demandes toujours si la folie d'Internet et des réseaux sociaux un jour va débarquer dans ta vie IRL, et donc la personne me regarde. Un regard un peu étrange. Bon. Je commence à marcher, direction mon domicile. Et je vois, avec mon sixième sens d'araignée, hein, que vous avez vous aussi tous derrière là, qui me permet aussi de lancer des toiles avec mes mains et de m'agripper au mur, je perçois avec mon sixième sens d'araignée que la personne me suit. Mon Spider-Sense, exactement. Me suit. Bon. Je tourne à droite. Il tourne à droite. Je tourne à droite. Encore. Il tourne à droite. Je m'arrête devant un bar-café dans mon quartier pour en avoir le cœur net. L'homme s'approche de moi. Prêt à bondir. Tel le ratel que nous avons évoqué tout à l'heure. Prêt à mettre en œuvre la danse du ratel. Un pas en arrière, deux pas en avant, l'attaque. Voilà. La personne se rapproche de moi. Me regarde et me demande « Est-ce que vous êtes Samuel Etienne ?» Et là, je me dis « Qu'est-ce qui se passe ?» Qu'est-ce qui se passe ? Je réponds « Oui. » D'un ton interrogatif. Non, j'ai pas répondu, je suis le pape, j'attends ma sœur. Et là, le mec le plus sympa du monde, voilà, aide-soignant justement, du sud de la France, venu pour un concert, voilà, et qui, avait pris, je pense, un Airbnb ou pour le week-end, dans l'immeuble où est mon studio de stream. Voilà. Hyper sympa. On a resté discuter 15 minutes. On a parlé de son métier. Très beau métier, être soignant. On a parlé de jeux vidéo. On a parlé de musique. Voilà. Voilà. Ah, et après, je suis retourné chez moi. Mais bon. C'est vrai que c'est... Mais en fait, c'est parce qu'en fait, il n'était pas sûr que c'était moi et tout. Mais bon. Et pourquoi tu te suis ? Il voulait vérifier que c'était moi. Non, mais c'était pas, ça partait pas d'une mauvaise intention. Non, mais ça partait pas d'une mauvaise intention. C'était très sympa. Et on a eu un échange très sympathique. Voilà. Mais et en plus, le gars le plus sympa de la Terre, quoi. Non, mais vraiment, vraiment, vraiment. Voilà. Bon, voilà. Mais voilà, tout ça pour... Je sais pas pourquoi on parlait de ça, d'ailleurs. Mais bon, c'est la nuit, c'est le soir, c'était ça. Voilà, il osait pas m'aborder, exactement, hein. Il a eu de la chance. Alors, tu as eu de la chance, tu as eu de la chance. Il a eu de la chance. Hein. Rappelez-vous, le ratel. Hein. Bon, sujet suivant. Oh, l'amour. L'amour. Hein, on va parler d'amour, on va parler de cheveux aussi. Voilà. Une coiffeuse marieuse. Une coiffeuse qui a formé des couples. Elle a coupé des cheveux toute sa vie et elle a formé des couples. Hein. Elle a défait des chevelures et elle a fait des couples. Voilà. Elle a formé des coiffes, elle a formé du volume capillaire, elle a formé des couples aussi. Voilà. Hein. Incroyable. Une vie dédiée à l'amour, dans le Parisien. C'est trop mignon. À l'occasion des 40 ans de son salon, et des 10 ans de son concept de rencontre. Karine Lopez, oui, des couples humains, oui, pas des couples de chats, lance une licence donnant le droit à ses collègues d'utiliser sa méthode d'entremetteuse. Du coup, les chauves vont rester célibataires, écrit Flo 2.0, oui. Ah bah oui, eh ben, fallait pas être chauve. Voilà, cette coiffeuse a formé 150 couples, des coupes et des couples, exactement. Une coupe, une couleur et pourquoi pas un mariage. Ce que peuvent demander les clients de Karine Lopez, coiffeuse entremetteuse à Grésy-Suisse en Seine-et-Marne lorsqu'ils prennent rendez-vous dans son salon. Je trouve ça trop mignon. Ce dimanche, dans la célébrité locale, c'est un peu une star, a fêté un double anniversaire, les 40 ans de son salon et les 10 ans de son concept de rencontre pour célibataires. Attention, mesdames et messieurs, Karine ne crée pas de couple de gens qui sont déjà en couple. Pas de ça ici. Hein. Oui, alors voilà. Discrètement, est-ce qu'il y aurait moyen de moyenner ? C'est pour les célibataires. Voilà. Depuis sa création, l'initiative a permis la naissance de plus de 150 couples. Alors, c'est beau ? Elle a profité de cet après-midi un peu spécial pour lancer une grande nouveauté, le lancement d'une licence destinée aux coiffeurs indépendants, leur donnant le droit d'utiliser sa méthode d'entremetteuse dont les secrets sont bien gardés. Car malgré tout, dans sa clientèle, un célibataire sur trois vient aussi se faire coiffer, confie-t-elle. Le prix de cette licence n'est pas encore fixé, il dépendra de chaque salon. Voilà, tu es dans mon chat, tu es coiffeur, tu es coiffeuse, voilà, tu veux dédier ta vie à l'amour, eh bien, tu, voilà, il y a un système de franchise hein, qui va se mettre en place. Rentrer pour une coupe à 20 euros, me dit Nix, et ressortir avec un devis mariage traiteur, il faut prévenir son banquier quand on va chez elle. Ça doit. Une annonce d'autant plus marquante que depuis toujours, ses activités d'organisatrice de rencontres sont menées de manière bénévole. Elle l'a fait gratuitement. Elle l'a fait gratuitement. C'est encore plus beau. Entre deux coupes de cheveux, elle reçoit les intéressés au salon et leur demande de remplir une fiche, une fameuse fiche de profil dont les 5 questions tiennent sur une feuille A4. Et attention, on verra plus tard, mais il n'y a pas de photo. Et non ! On n'est pas sur une rencontre basée sur le physique. Elle ne veut pas de ça. L'objectif est de cerner le futur participant et de comprendre ce qu'il recherche. Hein ? En revanche, interdiction d'imposer des critères physiques. Mon concept, c'est l'inverse d'un site de rencontre. Les célibataires choisissent une âme, pas une photo. Le premier qui se moque dans le chat, je le démarre. C'est très beau. Hein ? Pas question donc de faire son marché. Voilà ! Je vous lis, hein, je vous surveille. Hein. Hein, selon ces mots, mais quelques exceptions sont envisageables si la caractéristique est rédhibitoire. Par exemple, quand certaines femmes n'aiment pas les hommes chauves, j'essaie de m'adapter. Karine, qu'est-ce que tu racontes ? T'es coiffeuse ? Quel homme chauve va venir dans ton salon chercher l'amour ? Ah si, peut-être. Remarque, peut-être qu'il y a des mecs chauves qui sont au courant de l'histoire. Et qui viennent pas pour une coupe du coup ou juste un petit shampoing vite fait pour lustrer un petit peu le dessus hein, et Karine m'a dit alors j'ai des clientes elles sont pas trop sur les chauves. Bon, ok, un petit peu de discrimination quand même. On vous voit les rares du cheveu là hein. On vous voit hein. Ah, peut-être qu'elle fait la barbe par ailleurs. Ouais, t'as raison Gourou. Une fois la fiche de profil remplie, donc via l'entretien personnalisé, dont la durée peut parfois excéder 2 heures. Elle te fait remplir une fiche. Elle te fait un entretien personnalisé de genre 2 heures. Gratuitement ! Hein ? Ça, c'est beau, ça. Quand Karine Lopez est assurée que le célibataire est sincère et bien intentionné, hein ? Qu'est-ce que tu viens chercher, Raoul ? Raoul, qu'est-ce que tu viens chercher ? Tu viens chercher l'amour ? Ou tu veux Ken ? Ah, moi, je pense que Karine, elle pose des questions comme ça. Raoul ! Regarde-moi dans les yeux. Dans les yeux. Qu'est-ce que tu viens chercher, Raoul ? Qu'est-ce que tu veux vraiment ? Tu vois ? Raoul, c'est un kiffeur, voilà. J'adore cet article. Quand Karine... J'adore cet article. On peut chercher les deux, mais on vous voit. Hein ? Ouais, on vous voit. Il y a le monk, c'est pas un kiffeur, c'est un tiffeur. Tiff, oh là là. Ouf. Donc, tant Karine Lopez s'est assurée que le célibataire est sincère et bien intentionné, Raoul, on te voit. Hein ? On te voit. Alors, elle le tient informé par SMS des événements à venir, parce qu'elle organise des événements. Voilà. Et pour ceci, la coiffeuse ne manque jamais d'imagination. Par exemple, il y a non pas la Saint-Valentin, mais il y a la Saint-Valentin. Qui permet aux célibataires de se rencontrer une semaine avant la Saint-Valentin. Comme ça, tu peux peut-être trouver quelqu'un pour la Saint-Valentin. Voilà. Il y a des randonnées, il y a des soirées cinéma. Voilà. Ça doit galocher aux soirées cinéma, moi, je pense. Ou les après-midi sportifs. Voilà. Ils n'ont plus d'excuses pour ne pas venir. Voilà. Souvent, les célibataires participent à plusieurs rencontres. Voilà. C'est qu'au 6e événement que Christine, 57 ans, par exemple, a trouvé l'amour, le 31 décembre 2023, lors d'une soirée déguisée, elle remarque un homme magnifique. Déguisé en Gatsby. Moi, j'étais en Dalida. Ok, on est du monde musical aujourd'hui. Dalida, obligé. Moi, je suis un fan absolu de cette grande dame incroyable. Dalida, moi, je kiffe totalement. Qui est morte seule, qui est morte dans la solitude. Qui est... Quelle femme. Quelle femme c'était. On va se faire un petit extrait. Il venait d'avoir 18... Ah, peut-être pas celle-là. On a 18 ans, mais bon, quand même. Mourir sur scène, laissez-moi mourir sur scène. Qu'est-ce que j'ai ? Parole, parole, parole. Laissez-moi danser. Monday, laissez-moi. Laissez-moi danser. Je fais partie du groupe de danseurs. Dans une autre vie, j'ai dansé pour les artistes. Je fais partie du groupe de danseurs. Il faut me trouver. Tout le monde, certains m'ont trouvé. Alors voilà, c'est juste là parce que j'ai dansé. Comment c'est affreux. Attends, je me suis vu pourtant à l'instant parce que il y a très peu d'images. Il y a très peu d'images de cette époque-là. À l'époque, c'était la conservation des images. Voilà, je suis là. Voilà. À l'arrière-plan avec la petite moustache et la combinaison en cuir là. Voilà. J'ai toujours la combinaison, mais je rentre plus du tout dedans. Hein. J'ai pris du ventre. Voilà. Avec le. Bah, j'ai dégolé comme un dieu grec à l'époque. Voilà. Alors j'avais la moustache. C'est moi là. Ouais. Voilà. Donc, pourquoi on parlait d'Aïda ? Je ne sais pas. Mais. Voilà. Ah si, parce que la dame était déguisée en Dalida. Voilà. Et oh, c'est des bons souvenirs. C'est des bons souvenirs. Ça peut pas être fou, le mec fait 1m80. Ah, pas du tout. Ah, pas du tout. Pas du tout. On était une compagnie de danse, plutôt de danseurs petits. Voilà. Et donc, comme on était tous de taille plutôt petite, on n'avait pas. Tu vois, les gens se rendaient pas. Merci Bardino pour le raid. C'est la télé qui fait ça. T'as l'impression que t'es grand, mais pas du tout. Voilà. Donc je reviens à mon article, donc la dame s'était déguisée en Dalida pour cette rencontre. Christine, 57 ans, se déguise en Dalida pour une soirée, pour rencontrer éventuellement un amoureux, et elle rencontre un gars magnifique, dit-elle, déguisé en Gatsby. Et elle en Dalida. Ok. Il danse un slow. Alors le slow, les plus jeunes, vous n'avez pas connu. C'est deux personnes qui dansent ensemble sur des musiques douces et tranquilles, avec une séparation physique de l'ordre du millimètre, hein, voire pas de millimètre du tout, puis se perdre de vue pendant 9 longs mois. 9 mois, comme par hasard. Jusqu'au prochain événement. Cette fois, c'est le bellâtre qui prend les initiatives. Le mot est affreux. Bellâtre, c'est un mot... qu'est-ce qu'il est, ce mot ? C'est le bellâtre qui prend les initiatives. Bellâtre, c'est un mot très négatif. Hein. C'est une espèce de... Que dit le dictionnaire de l'Académie française sur bellâtre ? Ou le Robert, ou le Larousse, que sais-je ? Bellâtre, bel homme, fat et niais. Hein, voilà. Homme dont la beauté est supposée fade, sans expression ni caractère. Voilà. Par extension, celui qui fait le beau, le joli cœur, et qui, se sachant ou se croyant beau, on en connaît tous, prend des airs avantageux. Bon, le Parisien n'est pas très sympa. Cette fois, c'est le bellâtre qui prend les initiatives. À mon avis, le journaliste est gouré de mots. Hein, parce que vraiment, c'est un mot très péjoratif. Je l'ai invité dans une crêperie, raconte Gatsby, Gérard en fait, il s'appelait Gérard. Hein? Donc, la crêperie. Hein? Et il lui dit, et là à l'apéro il lui dit, comment s'appelle la dame? Attends, comment s'appelle? Valérie je crois. Bon, Christine. Christine, je vais te retourner comme une crêpe. Je suis désolé. Non, mais ce que je me dis, que ça va bien avec le personnage, tu vois, décrit par le Parisien, quoi. Non, peut-être pas du tout. Voilà. C'est là qu'ils se sont embrassés pour la première fois. Depuis, ils vivent ensemble le week-end et par intermittence dans la semaine. S'ils ne souhaitent pas se marier, ils assurent être très heureux tous les deux. Walter et Valérie, eux, aime l'officialisation de l'engagement et à chaque étape, Karine Lopez est aux premières loges. Voilà. Invitée à la fête intimiste de leur Pax, elle partage également la table des témoins, lors, c'est trop mignon, lors de leur mariage en 2024 parmi les 80 invités. Sans elle, on ne se serait jamais connu, Martel, Valérie. Hein. D'autant que rien n'était gagné d'avance. Si Valérie croule sous le travail en tant qu'aide-soignante en plein Covid, Walter, lui, doit composer avec une très grande timidité. Mais c'est trop mignon! Mais c'est trop mignon! Mais bravo, madame! Pourtant, c'est lors d'un bal costumé en octobre 2021 que leur trajectoire se croise. Alors, c'est dommage parce qu'on n'a pas les déguisements. Moi, j'aimerais savoir en quoi étaient déguisés Walter et Valérie, tu vois. Les deux tourtereaux s'éclipsent, mal à l'aise justement devant trop de participants, engagent la discussion et découvrent des passions communes, comme les visites de château. Voilà. Quelques rendez-vous plus tard, notamment à Fontainebleau, le lien se resserre. Ils se mettent à quoi? Ils se mettent en couple. Puis, emménagent ensemble en juillet 2022, renaissance pour Walter, bien sûr qu'on fera ce live cuisine avec Bardino bientôt. Fleur violette. Renaissance pour Walter, veuf, depuis 2011. Comme pour Valérie, seule depuis plusieurs années. Madame Karine, le salon de coiffure, bravo quoi. Bravo. En guise de reconnaissance, les amoureux ont aidé Karine Lopez à organiser des événements. Voilà. Christine et Gérard font eux partie de ce personnel bénévole, hein, puisque manifestement il n'y a pas de tunas dans tout ça. On prépare les buffets froids, on accueille les gens. Buffet froid, mais ambiance caliente, hein, vous m'avez suivi, hein, explique Christine. Et puis on finit par danser. Voilà. Ajoute Gérard, il faut faire confiance à l'avenir, le hasard. Et Karine font bien les choses. C'est un pari réussi pour la coiffeuse qui a commencé son activité d'entremetteuse pour guérir elle-même d'un gros chagrin d'amour. Voilà. La femme de Brigitte Bardot reversera les bénéfices de sa future licence. Mais elle est parfaite, cette dame. Donc, vous avez compris qu'elle a fait ça gratuitement toute sa life. OK. Et là, elle veut faire un système de franchise, de licence pour d'autres salons de coiffure, pour que d'autres artisans coiffeurs puissent faire un peu la même chose, tu vois. Et là, tu te dis, tunas ? Eh ben non. La femme de Brigitte Bardot reversera les bénéfices de sa future licence à plusieurs associations de protection animalière. C'est ma dernière mission de vie. Mesdames et messieurs, pour Karine Lopez. Une hola. Voilà. Faites partir la hola, c'est moi qui commence. Voilà. Let's go, Flibustier, des femmes, Clément Moulin, Olivier, des femmes. Vous êtes prêts? Let's go! Elle revient, voilà. Boubou, voilà. En même temps, elle est invitée gratos au repas de mariage, bouffe gratos. Dis donc, Calistera. Non, c'est bien, c'est mignon. Hola! Non, je disais, c'est la hola, Boubou. T'as vu le but de Dembélé? Emma, je t'aime, hein? Emma, tu sais que j'aime te lire, hein, dans ce chat. Hein. Mais quel est le rapport entre Karine, la coiffeuse de l'amour, et le but de Dembélé? Qu'est-ce à dire que ceci? Est-ce que t'as vu le coup de boule de Zidane? Hein? Non, mais en vrai, le bébé, oui, il paraît qu'il est incroyable, mais tu vois? Non, il paraît que le bébé est incroyable. C'est vrai? Attends, vous me mettez l'eau à la bouche, là. Je connais rien, de toute façon. But Dembélé. Dembélé, on est bien sur de la NBA, hein, c'est du basket. Hein. On dit pas un panier, d'ailleurs, plutôt? But? Alors, il y a 14h, le lob. C'est un lob? C'est le lob? C'est la frappe? C'est quoi? J'ai un lob. C'est un lob? C'est un lob? Vous me dites si c'est ça. J'ai un truc là. Bon, là, j'ai une pub là. Je vous le mets. Je vous montre. Oh là, encore des pubs. On va l'écouter celle-là, tiens, moi j'aime bien les pubs.
Ouf, non. Non.
Elle choisit ses voitures, elle.
Rouler à l'électrique, c'est 5 fois moins de CO2.
Pub. Hein? Bon.
Ah. Regardez le pressing par ici.
Merde, merde, merde.
Mais non, mais non, mais. Dembélé pour un doublé. Mais le réalisateur nul, putain. Oh, c'est reparti. Bon ben, on se fait des pubs bien.
Bouchage, je fais comment?
Rassurez-vous, Inès. Groupama est là. Nous vous dépannerons et trouverons près de vous un garage partenaire pour vos réparations.
Ok, Cerise. Vous n'aurez
aucun frais avancé.
Ah bah c'est parfait ça, merci Cerise.
Merci Cerise.
Toujours là pour moi.
La deuxième.
Et que regardez le pressing parisien.
Pressing gagnant. Désiré Doué pour Dembélé. Dembélé pour un doublé. Oh là là. Oh là là, génial.
Quel but.
Génial.
Quel but.
Oh là là, génial. Ousmane Ballon d'Or.
Du coup, j'ai pas bien suivi. C'est le mec en orange là qui marque le but. Qui a l'air un peu dépité en vrai. Hein.
Génial, inspiration.
Ah non, c'est le mec qui avait le manteau. Attends, lequel? Celui-là, là? C'est lui qui marque le but?
Oh, le
ah ouais.
Ousmane.
Ah ok, ouais, parce que moi, faut m'expliquer le foot, hein. Ok, ok. Ok. Alors, il y a Val Rolliste dans le chat qui, et je pense que ça mérite d'être salué, écrit non. En orange, Samuel, c'est le gardien. En vrai, cet article était trop mignon sur cette dame qui marie les gens après une petite coupe. C'est magnifique. Voilà. On va finir. Alors, je suis d'humeur très musicale aujourd'hui. Amis qui nous écoutez en podcast, vous ne pouvez pas le savoir, mais avant de lancer cette revue de presse, tout à l'heure en intro, on a fait genre 30 minutes un peu de karaoké. On a écouté plein de vieux morceaux de mon époque. On a écouté... du Pierre Bachelet, on a écouté du Cabrel, on a écouté du Scorpion, voilà. Mais on va reprendre la musique, puisque là, on va rendre hommage à Balavoine, qui est mort, mais comme le temps passe, il y a 40 ans, voilà. Et il y a une page dans la dernière édition du Monde, hein, le Monde daté de samedi, Daniel Balavoine célébrait tout azimut. Tournée, compilation, les hommages au chanteur de la Ziza se multiplient 40 ans après sa mort. Bon, lisons l'article pour ceux qui ne connaissent pas l'artiste et son œuvre et cette voix incroyable. Alors, évidemment, il y a une chanson, il y a des sites internet qui compilent les chansons un peu gênantes de l'époque. C'est vrai qu'il y en a une à l'époque qu'on chantait à tue-tête et maintenant quand tu la réécoutes en faisant attention aux paroles, Les Petits Lolos, pour ceux qui ne la connaissent pas, est un petit peu étrange. Voilà. Je crois que c'est Seb notamment qui en a parlé récemment. Alors, lisons cet article du Monde. Le 40e anniversaire de sa disparition est pour le moins paradoxal. La France célèbre la mémoire du chanteur et musicien Daniel Balavoine, mort à un âge christique, 33 ans. 33 ans. Voilà. Dans un accident d'hélicoptère au Mali, c'était le Paris-Dakar à l'époque. Voilà. Le 14 janvier 86, alors que le parti... dont il n'aura cessé de combattre les obsessions pendant sa courte vie, le Front National, ça moi je ne me rappelais pas, rebaptisé Rassemblement National, serait aux portes du pouvoir. Ça je ne savais pas que Balavoine avait un engagement politique. Bon, le Monde nous rappelle. Sa figure émerge ainsi du passé sur un mode mélancolique tant ce qu'il représente est aujourd'hui menacé, un homme humaniste, généreux et difficile à intimider. Après 8 albums enregistrés en une décennie, 75-85, donc c'est les années 70-80, Daniel Balavoine incarne les engagements d'une gauche rebelle aux appareils dans les années 80, soutien à l'association SOS Racisme, créée en 84, parrainage l'année suivante des Restos du Cœur, dont il souffla l'idée à son ami Coluche. Ok. Défense des droits de l'homme avec Amnesty International, distribution de pompes à eau pour les populations sahéliennes juste avant sa mort. L'aura de celui qui affirmait ne pas être un héros, je ne suis pas un héros, vous connaissez, est toujours intacte, et sa prospérité régulièrement entretenue par les passages en radio de sa vingtaine de tubes, les télécrochets, les concerts des enfoirés, des compilations. Une énième aussi peu originale que son titre Le Meilleur de Daniel Balavoine. C'est original pour un best-of de s'appeler Le Meilleur de Daniel Balavoine et commercialisé par la maison de disques Barclay à cette occasion. On a parlé d'une première chanson, Je ne suis pas un héros, let's go. Je ne suis pas un héros, Ne faut pas me colle à la peau. Non, non, non. Moi, j'adore. Alors, est-ce qu'on a du live où on le verrait chanter? Parce que c'est ça qui est intéressant aussi. Celle-ci, peut-être. La Ziza.
Personne dans cette ville.
La Ziza magnifique. Oui, faut pas croire ce que disent les journaux, tu as raison. Ils le disaient. Sachez que cette super production en termes de lumière que vous voyez ici, vous voyez la débauche de moyens, les spots rouges par exemple, là, c'est quelque chose qu'on retrouvera dimanche soir sur cette chaîne Twitch pour le simplet avec Avamine où elle m'initie aux techniques du mix du DJ et on aura une production de ce niveau-là. Il est tellement jeune.
Quand je monte sur scène, comme on prend le dernier train. Même les soirs de drame, il faut trouver la flamme qu'il faut pour toucher les femmes qui me tendent les mains. Qui me crie qu'elle m'aime et dont je ne sais rien.
Oui, oui, enfin, faut pas croire ce que disent les journaux, on va se calmer, hein, on est dans une revue de presse quand même, donc calmons-nous. Monsieur Balavoine, donc cette chanson est juste magnifique. On va en écouter d'autres. Hein. Je reprends l'article. Avec ses amis de l'époque, Jean-Jacques Goldman et Michel Berger, il jouit d'une popularité qui dépasse largement les amateurs de variété française. L'intensité du cut, ah bah oui, c'est pas les disques à la demande ici, hein. C'est une revue de presse. Hein. C'est pas comment s'appelle l'émission de Nagui, là. Où les gens y chantent, là. C'est pas Taratata, ici. Hein. Jusqu'à toucher des rappeurs tels que Soprano ou Youssoupha. Au point que trois projets concurrentiels lui rendent hommage en 2026. 21 novembre, la soirée Daniel Balavoine, 40 ans déjà, a prévu d'investir le lieu de concert préféré du défunt, le Palais des Sports de la Porte de Versailles, rebaptisé Dôme de Paris. Oh. On y était il n'y a pas longtemps. J'ai fait un truc là-bas. Au profit de l'association Daniel Balavoine, présidée par sa sœur Claire et œuvrant en faveur des populations maliennes. Présentée comme la seule initiative validée par la famille, elle a pourtant été devancée par la tournée Balavoine Ma Bataille qui reverse une partie de la recette à une association comparable, Cap Solidaire International, et bénéficie de l'approbation d'un autre membre de la fratrie de 7 enfants, parce qu'ils étaient très nombreux, Guy Balavoine, compagnon de route musicale puisqu'il fut choriste pour son Benjamin. Le même Dôme de Paris a été réservé pour le jeudi 22 janvier. Ah ouais, il y a deux soirées au même endroit, mais organisées par des membres différents de la famille. Ok. La rivalité familiale fait un peu désordre, alors que débute en mars une légende Balavoine avec la voix d'un certain Zébulon Duke. Après une générale à Beauvais, le 25 septembre 2025, Balavoine, ma bataille, titre en référence à la fameuse ballade de 80 évoquant la place du père dans un divorce avec enfant, a tenu à marquer le coup en cette date funeste du 14 janvier en faisant entendre les chansons de l'absent sur son lieu de naissance. Alors, mon fils, ma bataille, obligé. Mon fils, ma bataille. C'est mon fils, ma bataille, fallait pas qu'elle s'en aille. Et j'ai envie de dire, oh, oh, oh. Merci Elroir pour ce très beau raid. Merci à toi. Alors. Je vous prends exprès des vieux extraits où on le voit chanter, hein. Alors, il a toujours la même veste, hein, par contre. C'est la même veste que sur la chanson précédente. Peut-être que c'est issu de la même soirée, je sais pas.
Ça fait longtemps que t'es parti maintenant. Je t'écoute, t'es monté ma vie en pleurant. Si j'avais su qu'un matin je serais la salie, jugée sur un banc par l'ombre d'un corps que j'ai serré si souvent pour un enfant.
Il doit être streamer, je pense.
Qu'on ne sait pas ce que je serai dans un an. S'il savait que pour toi, avant de tous les chanteurs, j'étais le plus grand. Et que c'est pour ça que tu voulais un enfant devenu grand.
Et on cut, parce que ici c'est pas ratata et on va pas écouter toutes les chansons. Mais moi j'aime bien. Bon, les textes sont incroyables, la présence. C'est une autre époque, comme le dans témoigne de la veste en cuir et le playback aussi. Mais moi je suis assez fan, en vrai. Reprenons l'article qui va nous emmener vers d'autres chansons, bien sûr. Là, ça évoque les. En fait, tout ce qui va arriver dans cette année 2026, là, qui vont lui rendre hommage, voilà. Kira, ça revient un petit peu sur son enfance aussi. Voilà. Et donc, la découverte du pouvoir de la musique et de la chanson, voilà. Notamment avec les Beatles, dans un pensionnat de Dax dans les Landes, le gamin entend « She loves you hein. ».« She loves you », yeah, 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 bien sûr. En 63, son cœur s'emballe et sa vie bascule colorée et rythmée. Plutôt que de passer le bac, il rejoint le circuit des balles. C'est drôle. Balles plutôt que bac. Et intègre des groupes de rock, dont Présence, avec lequel il enregistre en 71, année magnifique, un 45 tours contenant deux de ses compositions. On le retrouve bientôt choriste pour Patrick Juvet, 1950-2021, avant que Léo Missire, directeur artistique de chez Barclay, lui fasse signer un contrat pour 3 albums. Les 2 premiers, dont Les aventures de Simon et Gunther, je ne sais pas qui sont ces Simon et Gunther, un ambition album concept sur ce mur de Berlin dont il ne verra pas la chute, sont marqués par le rock progressif de Supertramp et de Genesis, comme par les excentricités de Christophe. Mais le public ne suit pas. Daniel disait qu'on entendait les anglo-saxons chanter très haut, mais si on faisait ça en France, on se faisait reprocher de perdre sa virilité, disait Guy Balavoine. De fait, Barclay goûte peu. 2 points, ouvrez les guillemets. Excusez-moi, hein. C'est ce que disait Barclay, le producteur. La voix de PD de ce chanteur, ok, merci monsieur Barclay, qui ne lui plaît pas non plus physiquement. Mais Balavoine a des alliés, outre Léo Missire, Monique Lemarcy, un fan qui se trouve être la directrice de la programmation musicale RTL, et Michel Berger, qui lui offre le rôle de Johnny Roquefort pour Starmania, l'opéra rock qu'il a co-signé avec Luc Plamondon, puisque... Effectivement, Balavoine a participé à Starmania. Le succès arrive donc en 1978, donc le succès ne vient pas tout de suite. Et en octobre, la première version en studio de Starmania, qu'il faudra modifier plus tard pour intégrer le tour de force de Balavoine SOS d'un terrien en détresse. Sur 2 octaves et demie, il se rêve en oiseau en alternant voix de poitrine et de gorge. C'est le SOS d'un terrien en détresse, c'est ça ? Il y a le chanteur. Enfin, le chanteur, on vient d'écouter, c'est ça, non ? Voilà. SOS d'intérieur en détresse ? Je crois que je le laisse, celle-là. Je crois qu'elle est belle. Alors. J'ai plein de reprises, là, par contre. J'aimerais bien voir celle de Balavoine. Et on écoutera aussi. Vous avez été. Le chanteur, on l'a pas écouté ? On l'a pas écouté, le chanteur ? Jolie Balavoine. En direct. Donc pas de playback cette fois. Pour une émission qui s'appelle Le Grand Échiquier. Et on écoutera aussi Balavoine face à Mitterrand. Puisque c'est vrai que c'était...
N'écoutez surtout pas les magazines santé pour protéger votre mémoire.
Oh, la bonne pub en IA.
Si vous commencez à oublier des prénoms, des dates ou même pourquoi vous êtes entré dans une pièce...
Oh, attendez, faut que je vous montre ça. Oh, la pub IA.
Ce n'est pas parce que vous vieillissez. Des chercheurs indépendants et un grand neurologue français viennent de découvrir en mai 2025 les mensonges honteux de l'industrie agroalimentaire. Voici...
Oh putain.
Si ce qu'ils nous cachent depuis des décennies sur la perte de mémoire et le déclin cognitif, ce n'est pas à cause de l'âge. Ce n'est pas parce que vous avez...
Non, c'est à cause de l'IA par contre.
...de mauvais gènes. Et ce n'est pas non plus parce que vous ne faites pas assez de jeux de mémoire ou de mots croisés. Je viens d'avoir 63 ans et tout a changé pour moi quand j'ai découvert comment...
Enfin, on dirait qu'on a 85 en vrai, mais peu importe.
...en cibler la cause profonde à l'origine des pertes de mémoire, des oublis et du brouillard mental. Comprendre cette cause profonde est ce qui a permis à près de 8000 personnes de retrouver un esprit plus clair, plus rapide et plus alerte. Ces personnes avaient probablement essayé toutes les méthodes de stimulation cérébrale, mais comme elles n'agissaient pas sur la véritable cause, elles ne pouvaient pas voir de réels changements. De nouvelles recherches...
Mais abrège, qu'est-ce que tu veux dire ?
...ont découvert un lien inquiétant entre ce que nous mangeons chaque jour et la vitesse de destruction de nos neurones. Ces études montrent que votre cerveau continuera à s'affaiblir, quels que soient les exercices intellectuels que vous faites. Tout simplement parce que le problème vient d'ailleurs. Un simple...
Mais quoi, de l'espace ?
L'additif alimentaire présent dans de nombreux produits du quotidien traverse la barrière protectrice de votre cerveau. Une fois à l'intérieur, il favorise...
C'est quoi, il parle des crocodiles haribos, il parle de quoi ?
...la formation de plaques qui détruisent vos neurones et accélèrent la perte de mémoire. Le neurologue Étienne Mille alerte sur ce danger invisible. Il explique que ce que vous mangez chaque jour peut littéralement détruire vos cellules cérébrales, même si vous pensez avoir une alimentation équilibrée. Le plus fou, c'est que même si vous pensez faire attention à ce que vous mangez, vous n'êtes pas à l'abri, car cet additif toxique se cache dans des aliments du quotidien que vous consommez peut-être sans le savoir.
Oh,
les chercheurs étaient loin d'imaginer qu'une technique toute simple, inspirée des...
Non, c'est une vanne, c'est pas possible. C'est une vanne. Ah. Le gars chante en direct quand même. Hein. Ouais, ok, d'accord. Ouais, pour ceux qui s'interrogeaient sur la qualité de sa voix. Ok, parce que tout à l'heure, on a eu pas mal de playback quand même. Incroyable. On reprend l'article. C'est Grégory Lemarchal qui avait repris cette chanson. Ouais. C'était une pub, pourquoi du coup ? Bon, on n'a pas compris. Juste avant. Voilà. Sur deux octaves et demie, il se rêve en oiseau en alternant voix de poitrine et de gorge. Élégie miraculeuse qui est devenue un test pour les émissions de télécrochet. Ah bah voilà, Grégory Lemarchal. Surtout depuis qu'un autre chanteur au destin tragique, Grégory Marshall, se fit connaître en 2004 avec sa version pour la Star Academy. C'est d'ailleurs un plateau d'anciens candidats à ce type d'émission, dont deux gagnants de The Voice, qui a réuni le producteur Pierre-Nicolas Clairet pour « Balavoine ma bataille », encore un spectacle. Pas moins de 7 vocalistes apparaissent en nombre chinoise alors que s'élèvent les rythmes africains de « Pour la femme veuve qui s'éveille ». Un titre plutôt obscur. Donc, bienvenue qui salue les femmes de Shanghai, du Kostanaï, du peuple Maasai. Mais attends, cette chanson, elle est incroyable. Je la connais. Quelqu'un m'en parlait dans le chat. Ah, je me rappelle. Là, on a le clip officiel.
Thank you. comme celle de Kostanaï, dont la bande n'est qu'un détail. Mort au camp de travail, ce champ de bataille, oh inconnu, dont la peine insoutenable est insoutenue, mais son cœur a
Je crois que j'ai jamais fait ça. Je crois que j'ai jamais écouté une chanson jusqu'au bout sur Twitch pour des raisons de droit. Mais il y a des choses qui ne doivent pas être interrompues. Je pense que celle-ci, il fallait qu'on la regarde jusqu'à la dernière seconde. J'ai un message trop mignon. Je remonte dans le chat. Attends, où es-tu ? C'est Pile ou Face qui dit « Purée, ça fait 15 ans que je cherche cette chanson. Je l'écoutais dans le wagon de mes grands-parents. Bordel. » C'est drôle ça. Incroyable. Incroyable. Ces œuvres humanitaires sont également à souligner, comme les pompes à eau au Sahel. Oui, avec tout l'article, on parle, effectivement. Ouais. Alors, suite de l'article. Hop. qui évoque plusieurs des tubes de Balavoine. Une manière, donc on parlait de cette chanson justement qui salue les femmes de Shanghai, du Kostana et du peuple Maasai. Une manière habile de rappeler que Balavoine, sous l'influence de Peter Gabriel, avait anticipé en France la vague de la world music en mêlant des sons ethniques et en s'équipant avec des sons. Merci Quantique. Je ne sais pas pourquoi, mais merci de ce soutien. Merci pour les 10 abonnements offerts à la commu. Avait anticipé la vague de world music avec des sons ethniques en s'équipant avec des synthétiseurs échantillonneurs pour élargir sa palette. Merci Quantique. La suite, en solo, en duo ou en groupe, réserve les classiques espérés par le public. Le chanteur, aimer est plus fort que d'être aimé. La vie ne m'apprend rien. Dieu que l'amour est triste. Ça, c'est beau aussi. Entrecoupé à l'occasion d'extraits télévisés. Et alors, certaines sont ultra connues, comme le chanteur, par exemple, bien sûr. Mais Dieu que l'amour est triste, c'est beau. Hein. Moi, je trouve que les plus belles chansons de Balavoine, c'est les plus tristes. Alors, j'ai tapé Dieu. Dieu m'a donné la foi. Mais on va plutôt écouter Dieu que l'amour est triste. Qu'est-ce qu'elle est belle, celle-là aussi. On va écouter un extrait, juste un extrait.
Baiser d'amoureux, baiser langoureux, que le monde est malheureux. J'avais rêvé si fort d'un autre décor pour ma mort.
Il chante en direct là.
J'ai voulu t'emmener pour une lune de miel à San Salvador. Et te faire l'amour en parlant liberté au milieu des morts, en comptant les corps. Mais Dieu, que l'amour est triste! Que l'amour est triste! Depuis que le monde existe, je dis que l'amour est triste! Mais Dieu, que l'amour est triste! Oh Dieu, que l'amour est triste! Oh oh! Oh oh!
Incroyable, hein? Ouais, c'est fou, quoi. Et puis l'émotion qu'il pouvait mettre aussi dans l'interprétation, quoi. Donc, voilà, on entend Balavoine parler en 83 de gens bien vivants qui ne méritent pas de l'être sur le plateau de Drucker pour Champs-Élysées, sans toutefois rappeler qu'il avait fait scandale 2 semaines plus tôt à la télévision, toujours en affirmant « j'emmerde les anciens combattants hein. ». Du tour de chant a été écarté le titre « Les petits lolos », éloge des Lolitas devant les écoles qui ne passeraient plus la censure aujourd'hui. Parmi les 7 interprètes, le timbre soul et puissant de Florence François se détache de même que celui d'Odem qui interprète Lady Marlène, comme l'auteur l'entendait, c'est-à-dire dans le cabaret Glam et Bernois de Bowie. C'est cette chanson qui convainc qui Michel Berger de le recruter pour Starmania. SOS d'un terrien en détresse pâtit en revanche de la surcharge émotionnelle qui met à Bombay. Il parle de l'interprétation par d'autres gens. Entour, c'est moderne, plus rompu. Bon là, il parle que des hommages qui lui sont rendus, ok d'accord, on va pas donner tout le spectacle, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, pas tout le programme je veux dire. Ouais, en fait, là où je suis un peu déçu par l'article, c'est qu'on est quand même plus sûr, effectivement comme le dit le petit chapeau, la tournée, compilation, les hommages à venir sur Balavoine, que sur sa vie, son œuvre, son originalité, les conditions de sa mort, Paris-Dakar, l'accident d'hélicoptère, ses engagements humanitaires, politiques. Le début de l'article commence par son engagement contre le Front National de l'époque. Ne rappelle pas cette séquence historique très forte où il dit sa colère face à François Mitterrand, le président de l'époque, que je vais vous montrer là. C'est dommage. C'est dommage. Mais bon, il y aura d'autres articles. Balavoine Mitterrand. Ça, c'est un truc très très fort. Allez, je regarde un truc. J'aurais juste un truc.
Là, j'ai un extrait de Balawan sur autre chose, là, qui est un cas que je connaissais pas, que je suis en train de voir. Je suis tombé sur une autre archive, quoi, non, par hasard. Bon, j'ai envie de vous la montrer, en vrai. Donc, je pense que ça illustre bien le Balavoine engagé, quoi.
Et je voudrais poser une question à M. Balavoine. Que pense-t-il du racisme en France et du trop-plein, pour moi, de maghrébins qu'il y a en France?
Du trop-plein de
maghrébins, ce qu'on dit les maghrébins, les arabes. Car j'ai habité un quartier chaud de Marseille et les Arabes, bon, moi personnellement j'en ai marre. Hein.
Est-ce que le caméraman peut faire un gros plan sur les personnes qui sont derrière moi? C'est possible?
Voilà.
Monsieur, est-ce que vous voulez que je demande à ces gens-là de sortir de la pièce ou est-ce qu'ils peuvent rester?
Non, pas à ce point, mais non, je pense...
Bon, je vais vous dire quelque chose. Allez-y. Il faut savoir que les Maghrébins et autres sont rentrés en France pour l'exploitation... de l'exploitation financière. Ça veut dire qu'à l'époque où c'était l'euphorie économique dans les pays européens, y compris en France, ça arrangeait bien les exploiteurs de main-d'œuvre de faire rentrer de la main-d'œuvre moins chère. Et le chômage qui a lieu aujourd'hui et tous les problèmes qui ont lieu aujourd'hui ne sont pas dus à la présence des Maghrébins ou des Noirs ou des Jaunes ou de tout ce que vous voulez en France, mais est dû à des enfoirés qui portent souvent le nom, c'est vrai, de patronat ou de gens d'extrême droite qui ont exploité les races pour les payer moins cher et maintenant voudraient s'en débarrasser alors qu'il est incontestable que ces gens-là qui ont travaillé depuis les années 58, même des fois avant, jusqu'aux années 73-74, c'est-à-dire jusqu'à la crise pétrolière, sont des gens qui ont participé à cette euphorie commerciale, qui ont participé à la réussite de la France parce qu'ils ont travaillé et parce qu'ils ont travaillé à des prix honteux et exploités par des gens. Alors je crois que s'il y a bien des gens qui ont le droit de rester en France, c'est sûrement plus souvent les chômeurs maghrébins qu'une partie des chômeurs français. Et ça, ouais. Que ça soit clair, moi c'est ce que je pense, et en plus là je deviens, comme vous dites des fois, je dis
c'est très
sage.
Bien.
C'est odieux.
Mais vous êtes là pour dire ce que vous pensez. Est-ce que je peux vous poser une question, monsieur? Parce que comme je crois,
oui.
Comme je pense, vous êtes sincère, et vous ne vous croyez pas raciste, vous?
Pas tout à fait.
Non. Ah, ouais. Donc, pourquoi? Non mais c'est très honnête, au contraire, de dire qu'il ne se croit pas tout à fait raciste. Donc il n'ose pas dire, il pense qu'il ne l'est pas, et en même temps il a l'impression de faire du...
Pas tout à fait. Bon, c'est parce que c'est pas la vidéo que je cherchais, c'était celle avec François Mitterrand, parce qu'il avait été, il avait dit les termes aussi à François Mitterrand, président socialiste de l'époque. C'est ça que je vous cherchais. Mais pour le coup, je connaissais pas cet extrait-là. Alors, Mitterrand. Alors, je l'ai, mais sur le site de l'INA et l'INA, par rapport aux vidéos qu'on diffuse d'eux, ils sont parfois pas très drôles, mais bon, peu importe. Je pense qu'il faut le regarder quand même. Tant pis.
INA.
Hein, tant pis. Bon, amis de l'Institut National Audiovisuel, vous faites un travail formidable. Laissez-nous consommer un petit peu ces extraits de fou, quoi.
Pour les faire.
Très bon Lina, d'ailleurs.
Appeler le mouvement populaire à s'assembler autour du Parti Socialiste pour sauver et imposer les objectifs de l'Union de la Gauche, il me semble que cela est de mieux compris par l'électorat.
Oui, mais
par les
vous ne craignez pas que le pilonnage du Parti communiste vous pose des problèmes lors du deuxième tour des présidentielles?
Naturellement, il nous en pose. Si les dirigeants du Parti communiste veulent l'échec de la gauche, comme cela semble aujourd'hui démontrer, bien entendu, ils peuvent le faire. J'ai déjà dit...
Il est où, Balavoine?
Je me répéterai, la victoire dépend du Parti socialiste, mais la défaite dépend du Parti communiste. Alors, je ne voudrais pas que notre entretien s'achève là.
Il est 13h27 déjà, monsieur.
Oui, oui.
Nous allons jusqu'à
13h30. Ah, il est là.
Et nous avons encore à parler.
Il arrive, il arrive.
Sport, c'est un sujet qui vous intéresse. Nous allons à parler avec Daniel Balavoine aussi.
Permettez. Je voudrais dire que limiter.
Ça fait trois quarts d'heure que je suis là et que je m'ennuie en tant que bêtise. Alors maintenant, si je peux rien dire avant la fin de l'émission, je ne parle pas pour vous, monsieur Mitterrand, parce que moi, j'avais pris plein de notes en venant dans votre formation. Non, j'aurai pas le temps, je le sais déjà que j'ai pas le temps. J'ai juste le temps de me mettre en colère.
Est-ce que vous voulez commencer maintenant?
Non, c'est le système de l'information française qui fait comme ça. J'aurai le temps, une minute, de m'énerver. Juste de m'énerver, de paraître pour un petit merdeux, un petit jeune de plus qui fout la pagaille partout. Je préfère m'en aller tout de suite. Si j'avais su que je n'aurais pu rien dire, j'aurais dormi beaucoup plus tard.
Non,
je
vous remercie. Monsieur Mitterrand souhaitait votre présence Daniel Balavoine dans ce studio pour parler des problèmes de la jeunesse. Je pense que nous aurons eu le temps. Nous aurions eu le temps d'en parler. C'était de ça, non pas de chanson. Et c'était pas de chanson dont il était question.
Je peux dire une chose importante. Vous avez parlé pendant 10 minutes au moins de l'affaire Georges Marché, dont tout le monde se fout strictement. Je vous signale que la jeunesse française se fout strictement de ce que M. Marché faisait pendant la guerre. Ça lui est complètement égal. Ça intéresserait plus la jeunesse de savoir ce qui se passe et comment le Parti communiste encaisse de l'argent pour le dépenser après, notamment à la mairie de Bagnolet. Ça intéresserait mieux de savoir comment Gaston Defferre dirige sa mairie socialiste, qui n'est pas un modèle de société à Marseille. Ça intéresserait plus de savoir les jeunes Français comment M. Raymond Barre, qui est arrivé il y a 5 ans, ou 4 ans, ou je ne sais plus combien de temps, a dit que les salaires ne seraient pas diminués, mais qui a augmenté les cotisations de sécurité sociale. C'est beaucoup plus intéressant que tout ce que vous racontez. Georges Marché, on s'en fout de Georges Marché, il faut le savoir, ça. De ce qu'il faisait pendant la guerre, ça nous est complètement égal. Le problème de drogue, de la façon dont le traitent les ministres français, on s'en fout. Il n'y a jamais eu un jeune ministre de la jeunesse en France. Il n'y en a jamais eu, c'est tous des vieux. Regardez M. Soissons. Enfin, vous n'allez pas me dire que c'est un homme représentatif de la jeunesse. Regardez comment je suis habillé. Ils sont plus souvent habillés comme moi, les jeunes, que comme M. Soissons. Il ne faut quand même pas rêver. Tout ça, ce sont des bêtises. J'ai encore pris plein de notes au fur et à mesure que vous parlez. Ce que je voudrais savoir, ce qui m'aurait intéressé, c'est de savoir à qui les travailleurs immigrés payent les loyers qu'ils payent. On a vu tout à l'heure des gens qui disaient « on paye 700 francs par mois ». Moi, je voudrais savoir qui encaisse de l'argent pour louer des poubelles pareilles. C'est ça que je voudrais qu'on me dise. C'est pas de savoir comment on peut faire pour le changer. Je voudrais qui ose tous les mois demander 700 francs à des travailleurs immigrés pour vivre dans des poubelles et dans des taudis. Ça, c'est ça que je voudrais qu'on m'explique parce que moi, je ne le sais pas. C'est pas l'information qui me le dit. Je voudrais savoir pourquoi M. Boulin a été suicidé ou s'est suicidé ou on ne le saura jamais. Pourquoi M. Fontanet a été assassiné. Pourquoi l'affaire de Broglie n'a jamais été éclairée. Pourquoi le juge Renault, on ne sait pas ni pourquoi ni comment il a été assassiné. J'en ai d'autres. La seule chose que je peux vous dire, Monsieur Mitterrand, j'en profite de vous avoir parce que je suis fier d'être là. Je peux vous le dire. On s'en aperçoit peut-être pas, mais vous pouvez pas imaginer ce que c'est pour un jeune d'avoir la possibilité de parler une minute. C'est pour ça que j'avais peur de pas pouvoir parler, parce que ça n'arrive jamais. Il faut bien se mettre ça dans la tête. Non, ça n'arrive jamais. Regardez l'émission qu'il y a eu hier soir sur Antenne 2, les dossiers de l'écran. Enfin, vous n'allez pas me dire que les mômes qui étaient concernés par la contraception.
Nous-mêmes ici, nous avons donné assez fréquemment la parole.
Je sais bien. Je sais. On est obligé. Écoutez, vous exagérez l'information, je suis obligé de l'exagérer. Moi aussi, pour résumer, je la résume à ma manière. J'essaie de lire rapidement mes notes. Ce que je peux vous donner, en tout cas, c'est généralement, c'est un avertissement. J'ai peut-être du culot de faire ça, je suis obligé de le faire comme ça parce que je dois faire vite. Ce que je peux vous dire, c'est que la jeunesse se désespère, elle est profondément désespérée parce qu'elle n'a plus d'appui, elle ne croit plus en la politique française, et moi je pense qu'elle a, en règle générale, en résumant un peu, bien raison. Ce que je peux vous dire, c'est que le désespoir est mobilisateur, et que lorsqu'il devient mobilisateur, il est dangereux, et que ça entraîne le terrorisme, la bande à Badère et des choses comme ça. Et ça, il faut que les grandes personnes qui dirigent le monde soient prévenues que les jeunes vont finir par virer du mauvais côté, parce qu'ils n'auront plus d'autres solutions. Voilà, et je vous remercie de m'avoir laissé parler.
Monsieur Mitterrand, vous voulez dialoguer avec un jeune, vous l'avez écouté avec beaucoup d'attention.
Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que cette façon de penser, de réagir, et aussi de s'exprimer, parce qu'en fait, Daniel Balavoine s'exprime par l'écrit et par la musique.
Après, Mitterrand répond, et c'est quelque chose que vous pouvez retrouver sur Internet, notamment sur le site de l'INA. Vous avez vu, c'est en accès gratuit, lina.fr. Mais c'est vrai que j'avais oublié la force de l'intervention de Daniel Balavoine. Mais ce qui est intéressant, c'est cet aspect, j'allais dire militant, pas tellement militant, mais engagé. En tout cas, on peut entendre la réponse, pas que Superman, comme je viens de te le dire à l'instant. Il suffit d'aller en deux clics, tu tapes Balavoine Mitterrand, tu vas trouver ça sur le site de l'INA. On va manquer de temps, moi il faut que j'aille m'occuper de mes enfants aussi, on est samedi, mais c'est ce côté engagé, en fait. Et ce faisant, il n'avait pas peur des conséquences sur, par exemple, ses ventes de disques, parce que quand tu tiens des discours comme ça engagés... Voilà, comme le dit Étalon du cul, il ne défend pas un parti, il défend ce en quoi il croit profondément, puisqu'on l'a entendu très critique sur l'extrême droite dans un extrait précédent, et puis là il est très critique sur le pouvoir de l'époque, qui est un pouvoir de gauche, un pouvoir socialiste. Il a nommé des responsables socialistes, notamment dans des grandes villes, en s'interrogeant sur leur gestion. Donc c'est vraiment hyper intéressant, quoi. Un lanceur d'alerte toisé par la politique, rien n'a changé au final. Hyper intéressant. La question, je n'ai pas la réponse. Est-ce que ces artistes engagés ont disparu aujourd'hui? Sans doute que non. Peut-être que vous allez me citer des artistes, pour parler que de la France aujourd'hui, engagés, qui portent la voix de combat. Là, j'en ai pas. Je me pose la question. Est-ce qu'il y en a? Je ne sais pas. Hein. Pépin Camille, mais Damien XVI, par exemple. Voilà, il y en a plein, mais ils sont moins médiatisés. Oui, mais justement, ce qui est intéressant, c'est que là, on avait quelqu'un qui était Daniel Balavoine en pleine gloire à l'époque. Et ce faisant aussi, il prend le risque aussi de voir son succès impacté, parce que un artiste essaie de toucher quand il a du succès, de toucher le plus grand public. Et quand il prend des positions aussi affirmées que celle-ci, salut Julot, il prend le risque de se fâcher avec une partie de son public. La question existe pour les créateurs de contenu aussi, d'ailleurs. Oshi, oui, est une artiste engagée, oui. Blanche de Gardin, Roxy, oui. Enfin, justement, si je ne dis pas de bêtises, Blanche de Gardin a pris sa liberté de parole sur la question du Moyen-Orient, a payé très cher, si je ne me trompe pas. Donc, ça illustre ce que je viens de dire, en fait. Peut-être qu'on est en train de constater que c'est plus dur aujourd'hui, peut-être pour les artistes de s'engager à l'heure justement des réseaux sociaux et des menaces et des violences. Ouais, c'est vrai que Damien XVI, ouais, tu as raison, vous êtes plusieurs à me citer Damien XVI. Ouais. Ouais, comme le dit chez Eda, avec les réseaux sociaux, c'est devenu tellement délicat, avec la manière dont certains utilisent et détournent ce que devrait être l'utilisation des réseaux sociaux, oui, pour créer de la violence, de l'opposition, de la polarisation, de la haine, évidemment. Ouais. Le problème, ce n'est pas les réseaux sociaux, c'est la manière dont certains les utilisent, bien sûr. Ouais. Bon, en tout cas, c'était intéressant. Je ne pensais pas qu'on irait sur ces sujets. Pardon, je me suis un tout petit peu éloigné de... du principe de cette revue de presse du samedi, le samedi des bonnes nouvelles. Il y en a eu, hein, en matière médicale, de santé, notamment la coiffeuse de l'amour était trop mignonne. Et Balavoine, est-ce une bonne nouvelle qu'il soit parti il y a si longtemps? Non, pour le coup, mais c'était une façon de rendre hommage à un artiste qui était quand même... quelqu'un m'a dit d'ailleurs il aurait 73 ans aujourd'hui. Voilà. Merci les amis. Je vous retrouve... Est-ce que je vous retrouve ce soir? Je sais pas encore. Est-ce que ce soir il y a un stream de gaming? Je sais pas. En tout cas, je vous rappelle que demain soir, peut-être bien, mais pas avant, peut-être pas avant 9h, 9h30. Peut-être un stream tardif. Peut-être un stream un petit peu. Peut-être on va revenir sur un. On a fait du Valo. Il y a peut-être du God of War, peut-être du Skyrim, peut-être. On verra. Mais je vais passer un petit peu de temps avec les enfants. Et je vous rappelle que dimanche soir à 20h, je retrouve le visuel, il est là. On retrouve. L'ami Ava Mind, voilà, qui, dans un simplet un peu particulier, qui ne sera pas un simplet consacré aux jeux vidéo, mais un simplet consacré à une initiation de Sam par Ava au mix, au DJ, je ne sais même pas comment on dit. Voilà. Spectacle son et lumière, prod de fou, dinguerie de fête. Il faut que je prépare un petit message que je vais mettre dans la cage d'escalier en mode ami voisin, excusez-moi, il n'est pas impossible que de 20 à 23 heures, il y a un peu de bruit venant de mon studio et de la fumée. Je sais pas comment tourner ça. Je voudrais pas non plus que... En fait, j'ai très peur que ça appelle les pompiers, quoi. Et que ça rentre à la hache. Hein, parce que va y avoir... On a 20 mètres carrés à côté et j'ai prévu des fumées pour le Stade de France, quoi. Les fumigènes, là. Donc, alors c'est sans risque. Hein. C'est un produit que je connais bien parce qu'en télévision, sur les plateaux, on l'utilise beaucoup pour faire des jolies lumières. Il en a toujours un petit peu pour... vous voyez, par exemple, là, vous voyez là, les spots, là, les spots qu'on voit derrière Ava, cet effet-là, avec les spots, là, en fait, c'est justement grâce à la fumée que vous mettez sur les plateaux, quoi. Donc, au plateau télé, on s'en sert beaucoup. C'est sans aucun risque, mais de là à ce que les pompiers débarquent, je ne sais pas. David Guetta, fier à la maison, faites pas attention. Invite les pompiers, comme ça, ils seront déjà là au cas où. Non, non, il n'y a aucun risque. Mais c'est juste que rien ne ressemble plus à de la vraie fumée que de la fausse fumée, quoi. Des branches de détecteurs aussi, oui. Ah oui, il y a ça aussi. On fait un raid. Merci d'avoir été avec moi ce matin. Je vous retrouve au plus vite. Qui est en live? Qui est en live? Dieu, que l'amour est triste. Que l'amour est triste. Qu'est-ce que c'est que ça? Je regarde. Je regarde, j'ai plein d'amis en live. Ah! Alors, vous me parlez beaucoup de l'événement de Rayou, d'étoiles autour de Minecraft et Pokémon, hein, c'est ça? Eh bien, nous avons un streamer que nous aimons beaucoup, qui est Kenny. Kenny Stream, qui est en live actuellement dans cet univers-là. Voilà, donc on va voir le Kenny. Voilà, c'est parti. Kenny Stream, c'est parti. Comme ça, vous êtes entre de bonnes mains et je vous retrouve tard ce soir ou au plus tard dimanche 20h pour le Samplay avec Abba. Prenez soin de vous, passez un beau week-end, un beau samedi, profitez bien, j'espère qu'il y a du repos et force à ceux qui travaillent le week-end. À très vite. On va voir Kenny.